On en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue à ton émission du midi, l'émission On en jase. Il va tourner midi une dans quelques instants. Merci d'être là. 418-971-1021. T'es où présentement, cher auditeur? Es-tu en vacances de la relâche avec tes enfants? Est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu prends des congés cette semaine pour la relâche? Es-tu un enseignant ou une enseignante qui est en relâche scolaire? Bref, je veux savoir qui écoute et où vous êtes. Est-ce que tu as prévu, au froid qu'il fait aujourd'hui, aller aux Galeries de la Capitale, dans la meute, avec les enfants et les malades?
Oh mon Dieu! Ça prend du courage.
Ouais, mercredi annonce 4 degrés Celsius.
C'est une belle semaine pour être en relâche, oui. Par exemple. Jouer dehors, aller profiter de ça. Puis en plus, les érablières commencent, là.
Oui. Ouais.
Ça, c'est le fun. Ça, c'est bien excitant.
Ouais, ouais, ouais.
Hey, je me reprends. Mercredi annonce 5 degrés Celsius, alternance de soleil et nuages. C'est moins 10 à l'heure actuelle. Moins 23 avec le refroidissement éolien.
C'est froid, mais c'est beau.
Oui. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Moins 1 demain, généralement ensoleillé. Et à plus long terme, jeudi, c'est moins 5 avec 60% de possibilité d'averse de neige. Donc, aujourd'hui, c'est la journée frette. Puis après ça, vous allez avoir du beau temps pour la relâche scolaire. Mis à part le 418-971-101 pour nous dire « Tu nous écoutes de où? » Bien, blvd.fm, c'est la web radio. C'est aussi les meilleurs moments de l'émission qui vont se retrouver à cet endroit directement après l'émission. Boulevard 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store à télécharger, surtout en semaine de relâche. Tu peux nous écouter partout où tu vas au Québec. Doom, je te félicite, il est sur son tapis roulant en train de faire son exercice. Good job!
Bravo!
Moi, je m'en vais au gym à soir, je suis allé courir hier en pleine forme. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir notre belle face. Abonnez-vous à notre page YouTube, le caucus avec Antonine Iaccarini qui s'y retrouve à chaque jour. Et également, avec votre haut-parleur intelligent, vous faites seulement dire... Écoutez BLVD, c'est nos belles voix qui apparaissent à l'endroit où vous êtes. Isabelle qui nous écrit congé semaine prochaine et ensuite tous les lundis pour écouler des vacances non utilisées. Moi, donc ben le fun. Moi, on va être en congé jeudi et vendredi parce que j'ai une coupe de vacances pas utilisée aussi.
C'est... Alors, j'ai profité de la relâche. Je pensais que c'était des tournois d'hockey avec tes gars parce que ça achève. Là, on est dans le dernier
ouais,
blitz.
On en a eu un en fin de semaine qu'on a gagné.
Félicitations.
On se retrouve à Laval au championnat provincial le 29 mars. C'est un tournoi spécial de 4 contre 4 commandité par Best Buy. Fait que le 29 mars, on s'en va jouer sur la glace du Rocket de Laval.
Ça brasse des grosses affaires.
Avec notre équipe, c'était moment... très émouvant, là. Si vous êtes mon ami Facebook, allez voir, je le raconte rapidement. C'est un jeune de notre équipe qui malheureusement a perdu sa sœur de 16 ans il y a 2 semaines, qui était de retour dans notre équipe. Sa sœur qui souffrait d'une légère déficience intellectuelle et d'une maladie dégénérative, puis elle est morte subitement. Là. Elle était censée vivre plus longtemps. Donc, il était de retour dans notre équipe. Les gars l'ont accueilli de façon exceptionnelle. Carte pour lui souhaiter les sympathies. Ils ont dit « Tu fais jouer la musique dans la chambre. » Il a mis du Katy Perry à tue-tête pour la mémoire de sa sœur. Donc, les gars avec leur cellulaire allaient chercher les paroles de Katy Perry puis chantaient les tunes de Katy Perry. Ça a créé un moment inoubliable. Et en semi-finale, alors qu'on était en tir de barrage et que le prochain joueur qui marquait faisait gagner son équipe, moi et Vincent, l'autre entraîneur, on a dit « Sam, qui a un but depuis le début de l'année parce que je vais défendre. » On a dit « Sam, c'est ton moment, vas-y. » Il a marqué.
C'est lui qui a marqué.
Les parents pleuraient dans les estrades.
Wow.
Les gars, après avoir gagné la finale, se sont réjouis un petit 30 secondes. Et on dit, on s'en va au centre de la patinoire faire une minute de silence pour la sœur de Sam. Alors, ça a été un samedi soir très émotif.
C'est extraordinaire même pour ces jeunes-là, je trouve, de voir à quel point l'esprit d'équipe peut faire une différence, mais la cohésion autour de lui aussi.
Vraiment.
C'est des beaux supports pour des jeunes qui apprennent à être les adultes de demain.
Oui, alors hier, on en avait encore là, 2 à Tout le monde en parle, qui disaient à quel point le hockey était toxique, mauvais, puis qu'il ne devrait plus avoir de hockey dans nos écoles. Là. Ben le hockey, c'est aussi ça. C'est un groupe de chums qui se tiennent ensemble, puis qui sont ensemble dans les moments les plus plaisants, puis les moments les plus durs de la vie. C'est ce que j'ai vécu samedi soir. Les gars ont fait le party après chez JJ. Puis sur la bannière de champion, ils ont écrit un mot pour la sœur à Sam sur la bannière de champion. L'ont donné à Sam, puis ils ont dit « Va afficher ça chez vous, mon chum. Elle t'appartient, cette bannière-là. » C'est-tu pas beau, ça, comme cohésion?
Honnêtement, c'est extraordinaire. Puis de voir aussi que ces jeunes-là vont s'en souvenir toute leur vie. de cette fois-là où ils ont vécu leurs émotions aussi.
Mm-hmm. Tout le monde ensemble.
Tout ouais. le monde ensemble, puis que de se soutenir les uns des autres, ça fait vraiment une différence et qu'ils ont fait la différence dans la vie de leurs coéquipiers. Parce que je trouve que les gars ont des fois de la difficulté un peu à se parler, à s'entraider quand oui. ça va moins bien. Je trouve que tu leur as donné l'occasion de le vivre vraiment à fond. Puis évidemment, pour le jeune qui a marqué le but gagnant, tu sais, tu lui as offert une opportunité de... Ben, d'avoir un peu de bonheur aussi à travers l'épreuve qu'il vit. Donc, c'est vraiment un bravo, en tout cas.
Puis le soutien qui amène à cette victoire-là, ouais. puis le soutien qui amène à... Je pense que leur équipe ne sera plus jamais la même.
Ah non,
quand
il a marqué là, le but gagnant, là, il est parti directement dans la baie vitrée. Il a sauté dans la baie vitrée devant ses parents. Ses parents pleuraient. Les mères dans les estrades pleuraient. Et là, tu as vu, les boys, ils sautaient dessus, là, tu sais, puis... Ils se sont mis à crier avec lui. Et là, moi, je suis arrivé après. C'est la deuxième année que je le coach, Sam. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, man. Il m'a serré dans ses bras. Puis il dit, ça, là, je l'ai scoré pour ma soeur. Mmh. Il dit, était avec moi. J'ai dit, oui, je sais. Elle est là. Elle est là aujourd'hui. On a vécu un moment spécial. On perdait 2-0 en finale contre une équipe beaucoup plus forte que nous. Normalement, l'équipe se serait découragée. Puis là, sur le banc, tout le monde a dit, hey, on n'oublie pas l'objectif. On gagne ça pour Sam. Puis les boys ont reparti à la guerre. Très fier de mon ado de 16 ans, Edouard, qui s'est, lui, emmené dans la célébration, qui a dit « Les gars, c'est l'heure de la minute de silence. » Puis qui a expliqué à l'autre équipe, bravo gouverneur 3 de Sainte-Foy, d'avoir participé à cette minute de silence aussi. Et là, les gars sont au centre de la glace à genoux. Puis c'est mon petit bonhomme de 16 ans qui d'habitude est gêné, qui est debout, puis qui explique pourquoi on fait une minute de silence. En bégayant un peu, mais c'est normal, c'était la première fois qu'il le faisait. Puis là, ben moi, j'étais un papa avec les yeux dans l'eau, je le regardais, puis je me disais « Wow! »
Extraordinaire histoire,
ouais,
vraiment.
C'était vraiment... On a vécu un samedi soir très spécial, fait que je félicite l'équipe des Bucks de Charlebourg, les parents qui ont été extraordinairement bienveillants aussi pour accueillir les parents de Sam là-dedans. Écoute, à la fin de la soirée, la mère à Sam m'a serré dans ses bras en pleurant en disant « Merci, c'est une soirée que j'oublierai jamais. »
Ça fait une différence pour eux aussi, parce que peut-être qu'ils avaient de la misère à jaser avec leur fils, puis on spécule, mais dans des situations comme ça, c'est un peu difficile d'établir une conversation parfois. Des jeunes vont se refermer, tout ça. Fait que de voir leurs jeunes être capables d'être entourés de cette manière-là, puis de le plus possible faire sortir un peu la peine, comme Antonine le disait, c'est
aussi,
gratifiant.
On oublie des fois, c'est quand t'es frère ou sœur d'un enfant malade, honnêtement, c'est sûr que t'es un. Je dis pas que je les connais pas, on parle pas d'eux, là. Mais des fois, ils ressentent une certaine mise de côté. Il y a moins de place pour leurs problèmes à eux ou à elles, etc. T'sais, non seulement ils ont rendu hommage à la sœur, mais en plus, lui, comme personne,
il a vécu
son moment aussi à lui.
Bien dit.
Vraiment. Ah non, donc belle histoire de hockey. Donc oui, il y en a qui parlent contre le hockey, puis oui, il y aura toujours des choses à améliorer dans tout, puis il y a des choses à améliorer dans le hockey. Il n'y a pas d'autre là-dessus, là, comme n'importe où.
Ben oui.
Mais samedi soir, on a vécu le beau d'un sport d'équipe, d'un sport collectif. Puis je tenais à le mentionner parce que c'est pas vrai que c'est juste croche qui se passe dans le hockey. Puis c'est pas vrai que juste des entraîneurs niaiseux. Puis c'est pas vrai que juste des parents niaiseux. Au contraire,
ça
on
dépend
l'a vu, là.
L'arrêt que ces entraîneurs-là prennent pour choisir la manière dont ils vont leader leur équipe, quel leader ils veulent être. Puis quand tu te mets à ne pas sous-estimer ce que tu peux avoir comme impact chez ces jeunes-là, pas juste au niveau du hockey, je pense que ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur et de grandeur.
Ça a été exceptionnel, puis on est tellement contents pour Sam, puis on sait qu'on le revoit à soir à pratique, puis dimanche prochain à game, puis lui est heureux de réintégrer l'équipe, ça lui a fait un grand bien. Donc merci pour les commentaires là, par texto 418-971-101, des gens qui sont très touchés, je vous remercie infiniment. Avant qu'on parle de l'Iran, et on va en parler énormément dans cette émission, d'un dans le caucus avec Antonine Iaccarini, on va avoir Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires, qui sera là également. Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal qui va venir nous parler du prix du pétrole parce que oui, c'est la conséquence qu'on va vivre de ce conflit-là. Et Luc La Liberté, expert en politique américaine. Pascal, que se passe-t-il dans notre actualité?
Tu l'as bien dit que j'allais éviter le conflit actuel que l'on vit juste parce qu'on en reparle dans les prochaines minutes. Mais sinon, il y a le procès pour diffamation du cardinal Ouellet qui est dans l'actualité parce qu'il veut rétablir son honneur. Il y a une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par l'archevêque. C'est un archevêque très connu de Québec, là. Émérite de Québec, dans une action collective que ça s'est fait, tout cela. Et il y a eu ouverture d'un procès civil, donc en diffamation. Elle réclamait, cette femme-là, 100 000 Le cardinal, j'ai mal parlé de ma nouvelle, là. Le cardinal décide de laver sa réputation et c'est lui qui réclame 100 000 $ à une femme. Donc, cette femme-là qui allègue dans une action collective avoir été agressée sexuellement par l'ancien dignitaire de l'Église catholique. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avocats là-dedans et Maître Dominique Ménard était au Palais de justice de Montréal pour dire que ce caractère de connotation sexuelle n'est pas raisonnable et il faut prendre le dossier avec beaucoup d'importance. C'est un procès civil qui s'est ouvert aujourd'hui, donc intenté par Marc Ouellet. Et voilà des sous, 100 000 $ réclamés à Pamela Grolot, qui est une ancienne agente de pastorale au diocèse de Québec. Claude Dubois, on a des nouvelles de Claude Dubois, qui est opéré pour un cancer des cordes vocales. Alors, suite de son annonce et en février dernier. Donc, on a appris que l'auteur, compositeur, interprète de 78 ans va bien dans les circonstances, mais quand même, il traite son cancer. Et nouvelle qui semble tout à fait banale quand tu la lis vite comme ça à travers tout ce qui est houleux dans l'actualité internationale, mais on en parle depuis longtemps. Puis quand on est dedans, bien, ça devient hautement important. Puis quand on n'est pas dedans, bien, on oublie un peu. Et le printemps, souvent, ça amène ce discours-là et cet enjeu-là à nouveau sur la place publique. C'est le fait de créer des cartes de zones inondables dans Québec, donc dans la province. Des MRC qui refusent de les créer, ces cartes-là, de zones inondables. Et on est sans nouvelles ententes avec Québec. Le nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur hier et va devoir s'appuyer sur les anciennes cartographies dans les secteurs qui n'ont aucune entente de conclu. Puis ça, du côté de Chaudière-Appalaches, il y a bien des gens qui en ont souffert. Entre autres, depuis 2021, on a eu d'inondations assez majeures, ce qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui avaient eu l'autorisation de se construire aussi dans une zone qui était jugée inondable. Puis au niveau des compagnies d'assurance et tout ça, ça devient de plus en plus complexe, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup s'attarder au Québec.
C'est tout?
Tu m'as demandé des manchettes?
Ben oui! Parfait, excellent! Je pensais qu'il y en avait une petite dernière, c'est moi qui n'étais pas assez attentif. On passe au caucus!
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iacarini, on va régler une chose. On va tout de suite faire la promotion du fait que tu es dans le retour à la place de Denis Gravel pour les 4 prochains jours de lundi à jeudi de 14h à 18h. Donc, ce sera un retour avec Antonin, Audrey et Véro.
Alors, c'est excitant, ça. Ça va être le fun de vous écouter.
On va être un bon trio. Tu demandais aux gens qu'est-ce qu'ils font de leur semaine de relâche. Moi, c'est ça que je fais de ma semaine de relâche. Je travaille plus et je suis très contente de ça. Et
à la co-animation, voilà. Ça ne sera pas juste dans des analyses politiques.
Non. On va parler d'autre chose que de politique. Car j'en suis capable, bien sûr.
En passant, hier, c'est les 50 ans de mon frère. On a fêté ça dans un resto avec ses amis d'université, ses amis d'enfance, puis la famille. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, tu diras, Antonine, que je les aime, ces analyses. » Passe le commentaire.
J'en entends beaucoup parler aussi. Ça fait du bien, puis on parle souvent à quel point en taux, puis là, tu nous as pas payé pour dire ça, là. T'es capable de nuances, puis ça fait du bien dans le paysage de nouvelles, dans le paysage politique aussi en ce moment. Alors voilà, on t'a lancé les fleurs, il n'y a pas de
merci.
Peau.
Merci.
Dans un petit breaking news, il y a Donald Trump qui fait présentement un point de presse et qui a mentionné ne pas... refuse d'exclure l'envoi de troupes au sol. Mm-hmm. Donc, le conflit pourrait justement prendre une ampleur encore plus grande en Iran. Qu'est-ce que tu retiens de ce week-end-là, là, des attaques des samedis, puis évidemment, là, ça a pris toute la place dans l'actualité.
Oui, grosse fin de semaine au Moyen-Orient. Tu demandais aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient de leur fin de semaine, puis c'était de leur semaine de relâche. En tout cas, du côté du Moyen-Orient, ça nous tient occupés sur l'actualité. Hein. Des fois, ça ralentit au niveau politique localement. Puis,
j'ai la blague tantôt que moi, en tant qu'animateur de radio, j'adore Donald Trump parce qu'une semaine de relâche, il y a moins de choses dans l'actualité. Il décide d'attaquer l'Iran. Quand on est revenu du temps des fêtes, il y a moins de choses dans l'actualité. Il avait décidé d'enlever Nicolas Maduro. Donc, Trump me fait travailler.
Mais peut-être qu'il veut le maximum de lumière médiatique. Puis il se dit, bon, je vais choisir des petits moments plus... Non, je pense pas. D'après moi, ça n'a pas de lien avec ça. Donc, escalade majeure en fin de semaine avec les frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien. C'est une région qui est connue pour avoir des tensions de manière constante depuis des décennies. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, des attaques sur les sites militaires, sur des infrastructures stratégiques. Notamment, on parle, puis ça nous est rapporté de l'Iran, du site nucléaire Natanz, qui, évidemment, parce qu'on sait que les Iraniens ont un programme nucléaire. C'est une des sources de tensions dans la région, mais sur la scène internationale aussi. Pour ceux qui connaissent moins comment ça fonctionne, la vie démocratique en Iran, c'est une théocratie. Donc, c'est une dictature dans laquelle les gens, les citoyens n'ont pas grand-chose à dire. C'est une dictature religieuse. Et effectivement, le fait d'avoir un régime qui travaille à avoir la bombe nucléaire, disons, c'est une idée qui ne plaît pas à grand monde sur la scène internationale, d'avoir un pays comme celui-là, avec un régime comme celui-là, qui a l'arme nucléaire, et c'est une des principales sources de tension entre l'Iran, les voisins et les États-Unis depuis des années. Samedi, quand on a vu là, que les frappes commençaient, bien évidemment, on surveillait s'il allait réussir à tuer le leader suprême, Khamenei. Et l'annonce est survenue en fin d'après-midi que M. Khamenei était décédé et qu'il y aurait un nouveau leader qui serait nommé. Moi, ça m'a fait penser au début de la guerre en Palestine, quand les Israéliens se sont mis à tuer les leaders du Hamas, un après l'autre. Vous rappelez-vous de l'histoire des pagettes, notamment, qui explosaient? Donc, je me doute qu'à partir du moment, dès qu'ils vont nommer un nouveau leader, ce nouveau leader-là va devenir une cible pour la suite des choses.
Oui, là, il y en a même un trio, hein? Le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire Gulmenchan Monchhe-Eljay et le dignitaire religieux Alizera Arafi. Est-ce qu'il y a des chances que ça négocie avec les États-Unis, ce trio-là?
J'ai pas l'impression qu'on est dans un contexte où on va arriver à des négociations immédiatement, surtout quand on voit le président américain qui dit qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Il faut comprendre que faire des frappes aériennes et envoyer des soldats sur le sol, c'est deux ballpark de guerre complètement différent.
Oui, exactement. Quand tu envoies des soldats au sol, normalement, là, tu es vraiment dans un état de guerre. Oui. Sinon, frappe aérienne, tu es plus en mode, puis là, tu sais, ça va paraître...
opération militaire, mais pas guerre.
Quasiment plus en mode aussi préventif où tu attaques certains sites militaires, là, quoi qu'on a vu qu'une école a été attaquée.
Oui, bien là, il y a des bavures, ça peut arriver, mais... c'est ça. C'est la différence entre être en guerre avec un pays ou faire une opération militaire ciblée visant à affaiblir un régime. Là, on veut vraiment aller jusqu'au bout, remplacer le régime. Donc là, c'est là que...
ça se remplace-tu, cette dictature-là?
Bien, on le voit qu'on peut remplacer des dictatures. On l'a vu dans les dernières années. Les Américains sont les porte-étendards de ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça met en place des démocraties qui sont durables? Ça, c'est la question qui tue. Et de façon très générale, la réponse est non. Donc, c'est bien difficile de faire un changement vers une démocratie en partant d'une dictature et sans rester là, de manière constante. Vous savez, dès que les Américains, dès que les Alliés sont partis de l'Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé?
Les talibans ont pris le contrôle.
Les talibans sont venus. Par contre, l'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. Bien que c'est très difficile de mettre des régimes démocratiques qui fonctionnent et aussi d'éviter toutes sortes de débordements, de terrorisme, les milices, les moudjahidines. Dans cette région-là, quand il y a un vide qui s'installe, souvent il va y avoir même des gens de plusieurs autres pays avec le soutien de certains groupes comme le Hezbollah, le Hamas... ou d'autres groupes islamistes qui vont venir se battre. Les moudjahidines, ça veut dire que ce sont des soldats qui se battent là, pour leur religion, etc. Par contre, l'Iran, c'est différent. Parce que c'est un pays où c'est un pays qui est musulman, mais c'est pas des sunnites comme les autres pays que j'ai nommés, si on pense à la Syrie, par exemple, ou à l'Irak. C'est des chiites, c'est un peu différent. Quand vous voyez des actes terroristes un peu partout dans le monde, généralement, c'est plutôt de mouvances sunnites. C'est pas des chiites qui vont nécessairement faire des attentats. Je veux pas exclure que ça puisse arriver.
Mais ils sont moins violents. Dictateur a été très violent envers le peuple. Mais les Iraniens sont moins violents?
Je dirais pas que c'est moins violent, parce qu'il y a quelqu'un qui va nous envoyer des exemples.
Le dictateur a tué des centaines de milliers
Absolument.
De personnes.
Absolument. Et la religion chiite, c'est spécial aussi. Si vous vous intéressez, vous pouvez aller voir. Il y a toutes sortes de contenus, évidemment, sur Internet que vous pouvez aller voir. Mais demeure que le terrorisme international est dominé beaucoup plus par une autre mouvance. Et surtout, c'est que l'Iran, c'est un pays, tu sais, contrairement à l'Afghanistan, où c'était quasiment des tribus avec des chefs de tribus. Tu sais, on n'est pas dans le même environnement que l'Iran, qui est un pays hautement éduqué, dans lesquels il y avait des élites intellectuelles, de nombreuses universités, qui, avant l'arrivée de ce régime-là, avait une vie politique et sociale beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée qu'un pays comme l'Afghanistan, par exemple.
Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations monstres, justement, au retour des fêtes au mois de janvier pour aller chercher plus de liberté démocratique au sein du peuple.
Manifestations qui sont réprimées de manière extrêmement violente. Et on sait là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués à la suite d'avoir parlé contre le régime.
Et là, la parenthèse à faire, ouais. Parce qu'il y en a qui se réjouissaient de la mort du grand chef, là, mm-hmm. disons-le comme ça, sauf que Donald Trump qui allègue et qui demande à ce que le peuple se révolte et reprenne le contrôle, ça ne se fait pas comme ça. Là. Ils sont organisés au sein même du pays. Là.
Mais ils ont besoin, si les Américains et les Israéliens veulent changer le régime à la tête du pays, ils ont besoin que le peuple embarque jusqu'à un certain point, que l'armée aussi change de bord. Tu sais, il y a tous ces éléments-là qu'on essaie de mettre en place présentement. Est-ce qu'on doit se réjouir ou non de ce qui s'est passé? Mais c'est sûr que c'est un régime épouvantable qui vient de tomber.
Ben, je pense qu'on va toujours se réjouir de la mort de quelqu'un qui a tué des centaines de milliers d'innocents. Là.
Mais de là à penser que ça va devenir un paradis démocratique la semaine prochaine et que les femmes seront libérées, attention, là, ça dépend d'un paquet de facteurs différents. Un des facteurs dont je voulais parler, c'est qu'il y a une diaspora iranienne importante à travers le monde. Il y a des intellectuels, beaucoup des élites, justement, qui ont fui dans les années 80-90. Et il faut comprendre, tantôt je disais que c'est très différent de l'Afghanistan. Les Iraniens sont très éduqués. Okay, c'est des gens qui sont très diplômés et tout particulièrement la diaspora. Si on regarde les données, les Iraniens, les gens d'origine iranienne qui vivent dans les pays d'Europe ou en Amérique sont généralement beaucoup plus diplômés et éduqués que la population d'accueil. Donc, s'il y avait vraiment un mouvement vers une démocratie très sérieux et que la guerre ne durait pas là, pendant des années, parce que là, c'est sûr que si c'est un pays qui reste en guerre pendant des années, ce n'est pas très intéressant, est-ce qu'on pourrait voir un certain retour vers la maison de cette diaspora iranienne. Et là, des gens qui ont des compétences importantes, qui sont des gens qui sont très éduqués, des ingénieurs, des avocats, des gens qui ont une connaissance en politique publique et qui pourraient venir enrichir ce nouveau régime-là. Bon, là, je rêve un peu, mais ce serait un scénario dans lequel il y aurait vraiment des meilleures chances d'avoir un régime démocratique durable, contrairement à l'Afghanistan, qui, honnêtement, c'est même pas comparable. T'sais, on peut pas comparer l'Irak, l'Afghanistan et l'Iran. Donc, évidemment, ça va dépendre de ce qui se passe dans les prochains mois. Le Canada a réagi assez positivement.
Oui, à l'attaque de Donald Trump envers l'Iran.
Ça a été critiqué partiellement.
C'est sûr, mais peu importe la position que Marconi aurait prise, elle aurait été critiquée. Sensible. Donc, je pense qu'il a choisi un peu la moins pire des deux et de choisir aussi ses combats, parce qu'on ne peut pas toujours être en confrontation avec M. Trump. Et c'est vrai que c'est un régime qui est difficile à défendre, là, ce qui se passait en Iran depuis 1979.
Ouais, t'étais mieux d'appuyer Trump que d'appuyer un dictateur qui a tué des centaines de milliers d'innocents. Fait que si tu fais juste regarder ça dans la balance, tu dis « bon, ben je vais appuyer Trump ».
C'est qu'il aurait voulu que Marconi, ben, pour ceux qui critiquent, ait une position un petit peu moins claire.
C'est ça.
Plus pacifiste, plus « je regarde ce qui se passe, nous, on a nos alliés, mais pour l'instant, on se prononce pas ».
Non, il est allé assez clairement.
Mais il est allé assez clairement.
Puis sans surprise, là, Pierre Poilievre, même chose, appuie sans réserve ce qui s'est passé. On va voir, selon comment les choses vont tourner dans les prochaines semaines, peut-être que la réaction de M. Carney va moins bien vieillir. On verra comment se déroulent. Il y a des manifestations aussi là-bas, des gens qui défendent le régime. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est difficile de croire que ça célèbre tant que ça dans les chaumières que Khamenei soit décédé, mais évidemment, ça fait partie du portrait. Donc, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que ça pourrait donner lieu dans les prochaines années à du terrorisme international? Parce que c'est ce qui s'est passé dans plusieurs à la suite de plusieurs opérations comme celle-là dans d'autres pays.
Il y a eu un attentat au Texas cette fin de semaine qui a fait 2 morts et 14 blessés. On va en parler justement tout à l'heure avec Éric Ouellet.
Donc, ça aussi, ça reste à surveiller. Quand on crée de l'instabilité dans la région, ça se répercute parfois en terrorisme. Parce que la guerre a changé aussi, tu vas en parler avec ton invité, mais la guerre a changé. Hein. C'est plus deux pays qui s'affrontent, deux armées l'une contre l'autre. Ça fonctionne beaucoup aussi par terrorisme. Et ça peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment.
Exactement,
c'est un petit peu plus dur à contrôler.
Et d'ailleurs, l'Iran qui finance des franges terroristes, là, notamment le Hezbollah. Là, donc, c'est pour ça, justement, que la guerre a vraiment changé.
Puis en terminant, juste dernière réaction qui est importante à surveiller, c'est les marchés, puisque c'est une région pétrolière, évidemment, avec des carrefours de commerce international importants. Donc, les marchés ont évidemment réagi ce matin. On surveillait un peu comment le marché boursier allait se comporter. Pas mal de choses qui ont descendu. Mais le prix de l'essence, vous allez voir, risque évidemment de monter.
Le baril de Brent a énormément monté. Puis, tu sais, c'est des prix qui sont fixes. Ça veut dire que nous, au Moyen-Orient, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, la répercussion première, ça va être sur le pétrole.
Absolument.
Puis, dans tout ce qui est le canal de Suez avec le passage d'Hormuz, là, c'est là où il y a 20% du pétrole mondial qui passe. Puis, on a intercepté des bateaux ou encore on leur a demandé de faire demi-tour. Fait que ce qu'Antonine dit, c'est pas mal notre préoccupation économique principale en ce moment.
Absolument. Puis, ce qui a remonté aussi, c'est l'or, parce que dans des moments d'instabilité, bien, l'or devient une valeur refuge.
Exactement.
Donc, les marchés qui ont fortement réagi là, ce matin aussi.
On va parler justement de ces marchés-là avec Gabriel Giguère aux alentours de 12h50, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, caucus qui se retrouve sur notre page YouTube à chaque jour. Antonine, on va passer à notre démocratie parce qu'il y avait le premier débat. Je vais appeler ça une conversation entre Bernard Drinville et Christine Fréchette, où l'animateur Dimitri Soudas, ben, il leur a passé la parole, puis ils ont jasé de plein d'affaires sur plein de thèmes. Pas de grandes attaques, non. Mais t'as quand même retenu des moments qui sont intéressants.
Oui, parce qu'en fait, mes attentes n'étaient pas très élevées envers ce débat que je mets entre guillemets, là, qui est plus une discussion. On en voit de plus en plus en passant des débats qui, en fait, c'est tout le monde se passe la parole à tour de rôle parce qu'il y a une espèce d'allergie aussi de la part des gens à la
Attends,
joute.
Je vais faire une invitation. Ah, qu'est-ce que tu dis là?
Répète-moi
ça!
C'est ça. Puis l'espèce de cacophonie.
Yacarini, t'as pas raté!
Ça n'a pas la cote en ce moment.
C'est assez
ce genre
plate, d'attitude. On va se le dire.
Donc, on a beaucoup ça. Moi, j'en anime des débats des fois, puis c'est très à tour de rôle maintenant. Puis on donne des droits de réplique, mais il y a moins de débats ouverts comme il y en avait un peu auparavant. Et là, c'était la commission relève, donc l'aile jeunesse de la CAQ qui organisait cet exercice-là, animé par Dimitri Soudas, qui gracieusement là, animait la discussion. Puis, bon, premièrement, sur le format, c'était ordinaire, dans le sens que c'est jamais super extraordinaire du virtuel encore. Puis je trouve que depuis la pandémie, on ne s'est pas beaucoup amélioré.
Non.
Je vois, mettons, les gens en entrevue par Zoom à la télé, puis je me dis, Colin,
Bernard a mis son petit drapeau du Québec à côté de sa plante.
Oui.
Puis Christine, elle avait mis sa petite pancarte, course à la chefferie, de la Coalition Avenir Québec devant l'escalier.
Puis
Dimitri avait un fond d'écran que c'était la Coalition Avenir Québec.
Mais l'animateur était à Montréal, donc je ne sais pas s'il était à la permanence du parti. Puis les deux autres semblaient être chez eux ou dans leur bureau, je ne sais pas.
Bon, il y avait l'air chez eux.
Puis ça, c'est l'affaire avec les affaires en virtuel puis les entrevues en virtuel, c'est qu'on se demande tout le temps les gens sont où. Puis pendant que je me demande son haut, je n'écoute pas du tout ce qu'il dit.
Pendant que tu regardes le fond en arrière dans leur bibliothèque, parce qu'il y a eu une grosse mode aussi de qu'est-ce qu'on met dans la bibliothèque pour avoir l'air d'un érudit.
Exact.
Là.
le personne n'avait de bibliothèque en arrière de soi.
Non,
fait que ça,
c'est
bravo.
Ça.
Les caméras n'étaient pas en dessous du nez, parce que moi, c'est une autre affaire avec les zooms, c'est que les gens mettent leur caméra sur le bureau. Puis là, on a une belle vue sur double menton. Tout le monde a un double menton quand tu mets ta caméra en bas. Puis on a vue sur les narines.
Ouais, puis moi, je me suis même demandé, écoute, Bernard, y aurait-tu osé tirer un petit peu plus le drapeau du Québec? Il me semble qu'il est caché.
Mais je trouvais que leur setup était tout passable.
Mais là, en même temps, Bernard est plus souverainiste. Fait qu'il l'a mis un petit peu plus caché dans le coin. Je me dis, c'est une stratégie.
Peut-être.
J'ai trop analysé.
T'as suranalysé.
Mais
qui fait qu'on ne retient pas ce qu'ils disent.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Mais tout ça pour dire que toi, t'as retenu ce qu'ils disent.
Oui.
Et le premier extrait que tu veux nous faire entendre, c'est Bernard Drinville qui a marqué un bon coup en parlant de ses réalisations qu'il a fait pour la jeunesse.
Écoutez, vous nous avez habitués ces dernières années à brasser la cage. Vous avez amené beaucoup d'idées neuves au sein de notre parti. C'est vous notamment qui avez suggéré que l'on mette fin aux cellulaires dans les écoles. Je vous ai entendu et les cellulaires sont maintenant interdits avec des résultats très, très positifs pour nos élèves. Vous avez également souhaité plus de civisme dans les écoles. Alors, j'ai introduit le vouvoiement, monsieur, madame. Vous avez aussi, à un moment donné, dénoncé les dérives du mouvement syndical. J'étais à votre congrès pour répondre à ce vœu. Alors, je vous ai entendu. J'ai mis en œuvre certaines des réformes que vous avez souhaitées.
C'est très concret.
C'est un bon point.
J'adore.
Oui, parce qu'il fait le lien entre ses accomplissements et les demandes de la commission relève des jeunes de la CAQ qui avait mis ça dans l'espace public. Bon, souvent, en passant, c'est arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là.
Mais là, il s'est super bien adapté aussi au public cible.
Absolument.
Qui sont les jeunes. Donc, c'était très, 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 très bon. Point fort, je pense, que tu as souligné auprès de Christine Fréchette, c'est la façon qu'elle s'est débrouillée avec le dossier de l'immigration.
Oui.
Parce que là, c'est présentement celui au plus fort de la poche qui va en promettre le plus.
Oui, absolument.
Et je sens qu'elle n'entre pas, elle, dans ce débat-là. Elle prend le débat de façon très organisée pour justement pas qu'il y ait de débordement. Et j'aime beaucoup son approche.
Bien, c'est son style aussi d'être... Elle est moins polarisante un
oui.
petit peu. Puis des fois, ses adversaires peuvent lui reprocher d'être beige. Mais moi, je pense que la beigitude en ce moment n'est pas nécessairement vue comme un point négatif.
Bien, Mark Carney, il se promène pas
Charles
avec
Milliard,
le veston rouge écarlate. Là.
Non, c'est ça. Charles Milliard aux libéraux. Tu sais, il y a comme une espèce de... On a des gens un petit peu plus propres, là, un petit peu moins polarisants. Fait que, en tout cas, je suis pas sûre que c'est vraiment un désavantage pour elle. Puis en matière d'immigration, c'est que Mme Fréchette veut se positionner comme celle qui est économique aussi. Donc, oui, l'identité, mais l'économie. Donc, quand elle présente des politiques en immigration, on sait que l'immigration, c'est aussi hautement économique. La mobilisation qu'on a vue dans les dernières semaines pour le PEC, ça a parti de quoi? Du secteur des affaires. Mmh. Le secteur des affaires pousse toujours pour plus d'immigration parce qu'on veut de la main-d'œuvre. Donc, on sent qu'elle veut garder cet équilibre-là.
Je te propose qu'on écoute autant l'extrait économique que l'extrait par la suite où elle parle d'une réalisation qu'elle a fait en immigration.
Oui, merci. Bien, je rejoins Bernard quant à l'importance de gérer l'immigration. Il faut faire en sorte de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. On le sait, notre capacité, cette immigration.
Alors, c'était l'extrait économique. Maintenant, on écoute une bonne réalisation qu'elle a fait en immigration. Et honnêtement, je n'étais pas au courant de ça. Donc, j'ai trouvé
elle
ça très intéressant qu'elle le mentionne.
Dans les mesures concrètes qu'il faut mettre en place, ben moi, d'une part, je voudrais vous rappeler que lorsque j'étais à l'immigration, j'ai fait en sorte d'intégrer pour la première fois des exigences de connaissance du français dans nos programmes d'immigration qui donnent accès à la résidence permanente. Ça, pour moi, c'était non négociable, c'était un incontournable. Alors, on a établi des exigences à la fois pour le français écrit, pour le français à l'oral, ce qui a changé complètement la dynamique de plusieurs de nos programmes d'immigration, mais c'est important. C'est important de le faire, c'est important de le maintenir parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir comme nation.
Côté économique, elle est directement sur la cible des régions qui sont de « Hey, laissez-nous gérer ça par région parce qu'il y a certaines places qu'on a plus besoin que d'autres. » Donc ça, je trouve ça très pertinent puis elle l'amène d'une façon très structurée et rigoureuse. Côté français en immigration, ben moi, je trouve qu'elle vient marquer des points là-dessus. Et je m'explique, pendant qu'un Bernard Drainville, lui, est plus catégorique en disant « T'as un signe religieux, toi, dehors de nos écoles, t'as ci, dehors », elle parle d'inclusion.
Oui, exactement. Puis je pense que les gens ne savent pas beaucoup ce qu'elle a fait quand elle était au ministère de l'Immigration.
C'est vrai.
Et c'est un peu aussi une victoire, parce que des fois, le fait qu'on n'en parle pas, ben, c'est parce qu'il n'y a pas non plus de scandale nécessairement ou de chèque.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?
Peut-être, en quelque sorte. Tu sais, dans le premier mandat de la CAQ, ça avait brassé beaucoup en immigration.
Ouais.
Donc, elle a été un peu plus apaisante dans le dossier.
On termine le débat avec Dimitri Soudas qui a demandé aux deux candidats de parler d'une qualité de l'autre. Christine Fréchette, Antonine, rappelle-moi ce qu'elle a dit.
Christine Fréchette a dit que Bernard Drainville est très investi. C'est quelqu'un qui se donne à 100%. Je pense que c'est vrai.
Oui,
mais, que...
mais c'est quand même une qualité boboche.
C'est
je m'explique.
Ouais.
Je peux être full investi dans mon travail, mais si je ne suis pas bon, à un moment donné, mes patrons vont dire bravo pour l'investissement.
Ben, ça
c'est
devient
fini.
Un défaut même. T'es trop investi, t'es pas
Est-ce
bon.
Est-ce que c'est un compliment de finalement
ben, j'ai trouvé que ça avait l'air d'un compliment. Tandis que Bernard Drainville, le mieux joué, selon moi, à la Bernard Drainville avec un peu d'humour, mais j'ai adoré la qualité qu'il a trouvée pour Christine Fréchette.
Christine chante très bien. Pas autant que moi, mais quand même
ça, c'est la
très, très bien. On a chanté ensemble, vous allez comprendre la blague. Un jour, prochainement, vous allez voir, on a chanté ensemble, Christine et moi.
Je l'adore.
Alors, je fais un peu d'humour, là, mais sur très sérieusement, c'est une femme studieuse, Christine. elle a pris cette nouvelle mission qui lui a été confiée avec le départ de Pierre Fitzgibbon, et puis elle a piloté ses dossiers sans faire d'erreur. Donc, je pense que c'est une femme studieuse, c'est une femme qui est travaillante aussi, et donc ça me fera très, très, très plaisir de l'avoir dans mon équipe, et elle occupera un poste très important dans mon gouvernement.
Bon, évidemment, il termine en essayant de se mettre à l'avant-plan, mais je trouve que la qualité est véridique, parce que c'est vrai que récupérer les ministères de Pierre Fitzgibbon, c'était pas une mince affaire.
C'est un bon point, mais moi, je trouve aussi que c'est un peu un compliment.
Ah, ouais, je le voyais pas de même, explique-moi.
Parce que d'un côté, Christine Fréchette, ce qu'elle fait avec Bernard Drainville, c'est qu'elle met de l'avant, tu sais, il est bien investi, là, tu sais, comme...
Ouais.
Puis le sous-texte, c'est il va être baissé tout le temps. Hein? Mmh. C'est un émotif.
En effet.
Donc, elle a amené les gens vers le petit côté, des fois, qui peut faire, disons, jaser négativement de M. Drainville. Et Bernard Drainville fait la même chose. Parce que ce que l'équipe de Bernard Drainville spin sur Christine Fréchette, c'est qu'elle est hésitante, puis ça y prend donc du temps, puis qu'elle consulte.
Vrai.
Fait que de dire qu'elle est studieuse, dans le fond, ils essaient d'amener les gens vers cette espèce de truc plus négatif qui est qu'elle peut, des fois, tergiverser très, très longtemps. Donc, les deux, finalement, je trouve, ont fait un petit peu des compliments.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Merci de m'éclairer. Rapidement, une petite minute, Antonine. Deux départs en politique. Ouais. Vincent Marissal qui dit « Oh, la politique, c'est essoufflant. »
Oui.
« Ah, j'avais à questionner le gouvernement.
Ouais. »
Oh, je
tous les jours, fallait que je trouve des lignes.
Des lignes. Ah, je t'ai épuisé. Pense pas au camionneur qui est en train de faire de la route puis au gars dans une shop. Hey,
ça n'a jamais
lui
été sa force,
non, lui,
à Vincent Marissal.
Lui, il est épuisé. Il est épuisé parce que le PQ, il a dit, sais-tu quoi, dans Rosemont, on va continuer avec le comédien Pierre-Luc Briand, puis il reste dans la maison, toi, Vincent.
Moi, j'ai l'impression que le PQ s'est dit, présenter un ex-député de Québec solidaire, est-ce que les avantages dépassent vraiment les inconvénients? Je pense que, tu sais, M. Marissal, il faut le dire, on avait l'impression qu'elle allait se présenter pour le PQ puis que c'était fait, mais c'est qu'en fait, il y a un employé de QS qui a vu dans l'agenda de M. Marissal qui avait rendez-vous avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, et c'est là que ça a sorti. Donc, il avait été un peu pris de court avec tout ça.
Exactement.
Il a fait sa tournée d'entrevue, il a planté sa formation politique, puis ça a fait très mal à
ça,
Québec.
Ça, tu veux pas de ça. L'autre départ, c'est Caroline Proulx. Je me permets de refaire joindre un extrait de 30 secondes qui, justement, expliquait tout comment ça a pu venir jouer émotivement sur elle la mort tragique de sa mère par rapport à son travail de députée.
Puis le dernier événement, c'est l'inauguration d'une maison des aînés à Gatineau avec le premier ministre.
Ah ouais, OK. Moi, j'en ai entendu parler.
Ouais. Et là, je visite les aînés. Et là, c'est une intensité à 9 sur 10. Je suis dans l'ascenseur, Paul, puis je suis tellement gênée puis honteuse. Je donne des coups de pied dans l'ascenseur tellement je suis fâchée après moi de ne pas être capable
de composer avec...
De maîtriser ça, tu sais, je veux dire, j'ai une job à faire, là, tu sais.
On le rappelle, elle a retrouvé un 31 décembre, sa mère inerte en bas d'un escalier qu'elle avait déboulé. C'est horrible comme façon de voir sa mère. Et puis, ça l'a amené à devoir quitter le ministère des aînés parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper des personnes aînées. On l'entend dans cet extrait-là. Donc, je souhaite énormément de courage à Caroline Proulx. J'y envoie énormément d'ondes positives. On comprend pleinement sa décision.
Absolument. Puis, tu sais, je sors un peu juste du cas de Caroline Proulx. Évidemment, on comprend sa décision. Mais quand même, je trouve ça difficile pour les deux candidats à la chefferie en ce moment de voir des gens qui, avant la fin de la course, décident d'annoncer comme ça. Parce que tu as un parti qui essaie de sortir la tête de l'eau. On s'entend que jusqu'à Noël, dans les projections, on voyait zéro siège pour la CAQ s'il y avait une élection maintenant. Et là, tu as deux candidats à la chefferie qui vont vouloir essayer de remonter le parti. Puis là, tu as des annonces comme ça négatives presque à chaque semaine de ténors, de ministres actuels ou anciens qui disent « Moi, je ne me représenterai pas à la prochaine élection. » C'est sûr que ça donne une impression de fin de régime qui vient un peu devenir un obstacle à essayer de remettre le parti à flot.
Préféré avant, toi, en termes de stratégie politique ou après la course?
Peut-être plus après, parce que ça aurait donné la chance à un nouveau chef ou à une nouvelle chef d'annoncer peut-être d'autres candidatures puis d'essayer de remonter, d'aller chercher quelques points dans les sondages. Mais en même temps, chacun prend sa décision personnelle. Est-ce que je peux reprocher à Geneviève Guilbeault d'avoir annoncé ça quand elle l'a fait? Bien sûr que non. Est-ce qu'on reproche à Caroline Proulx de l'avoir fait? C'est une décision qui est personnelle, mais il faut quand même se dire que pour un nouveau chef ou une nouvelle chef, c'est tannant d'avoir une mauvaise nouvelle par semaine comme ça, puis ça donne une impression que ça va pas bien.
T'as entièrement raison. On se garde le cas de Mélissa Généreux dans le parking, comme je m'appelle à dire. Danse, parce que je vais vouloir entendre ton opinion là-dessus sur ces candidats qui magasinent un parti politique. Quand le parti politique dit « Sais-tu quoi? On n'est pas dans la même, dans le même alignement. On n'a pas la même pensée. » Que ce candidat-là sort pour parler contre ce parti politique-là alors qu'il voulait l'intégrer. Je trouve toujours ça drôle.
On s'en reparlera parce que dans les prochains mois, évidemment, les candidatures vedettes et tout ça, ça va faire couler beaucoup d'angle.
Exactement.
Puis le PQ qui est en train de redescendre un peu dans les sondages, est-ce qu'il y a des candidats qui vont choquer en bon français? Donc, à suivre.
C'est une bonne question. On s'en parle de ceci cette semaine. C'est sûr. Antonine, on t'écoute dans le retour avec Audrey et Véro à compter de 14h. Dans un instant, à Boulevard 101, l'émission On en jase, Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, va venir nous parler évidemment de ce qui se passe présentement sur le terrain en Iran. Et Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal, va venir nous dire, lui, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quel prix du gaz? Parce que le prix du gaz, c'est nos poches, puis ça va augmenter.
Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on doit stresser? Est-ce qu'on doit se calmer?
Exactement. C'est de tout ça qu'on va parler dans un instant à Boulevard 101, l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à...
OK, oui, on jase à l'émission On en jase, midi 45 exactement. On vous parle d'actualité, on vous parle des grands enjeux. On tente de vous parler des enjeux qui sont ici à Québec. D'ailleurs, Mathias Turcotte va nous faire un excellent dossier tout à l'heure aux alentours de 13h30 sur les portes des commerces ouvertes dans le Vieux-Québec en hiver. On laisse les portes ouvertes pour que les gens rentrent. Et là, il y a des citoyens qui disent « Ben voyons non, Hydro-Québec a me dit de partir mon lave-vaisselle à 1h du matin. »
Puis la porte est ouverte à moins 20.
C'est ça! Donc, il y a des citoyens qui se plaignent. D'après moi, ces citoyens-là, ils veulent plus de commerce dans leur quartier. Mais bon, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Mais là, évidemment, on va parler, Pascal, parce que ça brasse pas à peu près en Iran. Plein de frappes qui ont été faites par les États-Unis et Israël. Des répliques également. On attaque le Liban. Donc, bref, c'est vraiment une véritable poudrière présentement au Moyen-Orient. Et qui de mieux pour nous parler de ceci qu'Éric Ouellet, qui est... professeur titulaire au département d'études et de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. En effet, ça brasse beaucoup en ce moment.
Ouf.
Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez en fin de semaine ou vous dites que ça dépasse un peu l'entendement?
Je dois admettre que ça m'a surpris que les Américains attaquaient, mais avec le recul, les signaux étaient là. Il fallait les avoir lus plus, de façon plus précise.
Ça faisait au moins deux semaines, en fait, que c'était attendu. C'est ce qu'on comprend là, au niveau de l'Europe, entre autres. On se grouillait là-dessus. Ça fait quelques mois, on a ramené les services militaires. On voyait que l'instabilité était plus profonde qu'à l'habitude.
Oui, mais aussi la montée en puissance des forces américaines avait commencé déjà depuis le mois de décembre. Donc, il y avait déjà des signes qui se préparaient à mettre de la pression énorme sur l'Iran. La question, c'était jusqu'à quel point ils allaient... tolérer des négociations là, qu'elle est nulle part avec les Iraniens avant de passer à l'attaque. Clairement, M. Trump a très peu de patience.
Donald Trump n'a pas exclu aujourd'hui en conférence de presse l'envoi de troupes au sol. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Éric Ouellet, qui est un spécialiste en la matière?
C'est une annonce, je dirais, au cas où, mais je pense qu'il n'y a pas de troupes en grande quantité qui sont prêtes à passer à l'action. Là, ça prendrait des semaines avant de monter en puissance pour de forces terrestres. Je pense plus que c'est peut-être dans le cas où on enverrait les Marines, par exemple, pour prendre le port de Bandar Abbas, là, qui est dans la partie nord du détroit d'Ormuz, pendant quelques semaines pour faciliter le passage des navires. Donc, c'est des opérations relativement limitées, mais je ne peux pas imaginer un scénario où on répète l'évasion de l'Irak. Ça prendrait de nombreuses semaines avant de monter les troupes américaines pour être capable de faire ça.
On entend tout et son contraire en ce moment, assurément parce que c'est un peu imprévisible, hein, la réplique de chacun là-dedans. La façon d'organiser les répliques au niveau de l'Iran, c'est plus émotif, c'est plus revanchard au niveau d'Israël. Les États-Unis ont encore la possibilité de discussions diplomatiques, disons-le comme ça. Mais on doit craindre quoi le plus là-dedans? Ce sont peut-être les États-Unis qui vont vouloir avoir l'ego d'être encore une puissance mondiale et de le démontrer, ou encore l'idéologie islamique au sein de l'Iran et de ses alliés qui a des groupuscules terroristes quand même comme alliés?
L'Iran est très affaibli depuis les dernières deux années, là, en particulier avec les frappes israéliennes du mois de juin. et aussi la perte de leurs alliés là, en Syrie, le Hamas, le Hezbollah qui sont très diminués, les Houthis qui aussi sont beaucoup plus prudents dans leurs activités. Donc, je pense pas que ça va rajouter ou augmenter la mouvance islamiste ou les renforcer. C'est possible que les Américains fassent affaire à une situation où l'Iran ne capitule pas malgré des destructions massives et il n'y a pas non plus de révolte populaire. Et là, c'est vraiment pour sauver la face. Ils vont peut-être être dans une situation plus délicate d'un point de vue politique.
C'est une des raisons pourquoi les États-Unis, justement, attaquent au Liban également via Israël. C'est pour affaiblir également le Hezbollah, donc pour prendre vraiment le contrôle du Moyen-Orient en tant que tel ou à tout le moins de protéger davantage Israël.
Oui, je pense que c'est surtout de protéger Israël et aussi d'en envoyer un message fort au gouvernement du Liban, en fait, qui s'était engagé à reprendre le pouvoir sur l'ensemble de son territoire et le monopole des forces armées. Donc, je pense qu'il y a une manœuvre politique plus pour mettre des pressions sur le gouvernement libanais parce que les Israéliens sont parfaitement capables de répliquer au Hezbollah.
Oui, d'autant plus, on a demandé aux Libanais de quitter peut-être les secteurs plus de villes, aller dans des endroits où on ne risque pas d'être touché, tout ça. Donc, c'est un petit peu plus psychologique de ce qu'on comprend comme frappe. Est-ce que le risque à venir dans les prochains mois, ce n'est pas la politique dans tout ça, mais ce sont les courants idéologiques, peut-être même religieux, qui voudraient ne jamais freiner leur expansion?
Si on pense au mouvement islamiste, encore une fois, je pense que il y a une limitation dans ce que l'Iran peut faire parce que bon, il y a la division entre les chiites et les sunnites là, et donc l'Iran n'est pas vraiment le représentant officiel du mouvement islamiste, mais plutôt d'une des branches. Donc ça il y a quand même des limites sur ce que l'Iran peut faire. Et donc, je ne vois pas qu'il y ait de montée du courant djihadiste, rien de massif. Okay. Parce qu'ils ont attaqué, l'Iran a attaqué les pays arabes voisins, ça a beaucoup miné leur crédibilité. Donc, je pense qu'il ne faudra pas avoir trop d'inquiétude là-dessus.
Éric, en terminant cette excellente entrevue, tu nous avais parlé vendredi dernier de possibilité d'attentat aux États-Unis. Eh bien, ça a été fait à Austin, au Texas, un pro-iranien qui a fait 2 morts et 14 blessés dans une fusillade. Est-ce que c'est une possibilité qu'on en voit plus le conflit va s'allonger?
Ah, absolument. La seule clé que l'Iran a dans son jeu, c'est mettre des pressions politiques et économiques. Faire monter le prix du pétrole à des niveaux très élevés, où là, il y aurait beaucoup de pression sur les États-Unis pour arrêter, et aussi des pressions à l'intérieur des États-Unis pour dire que la guerre dépasse les limites de l'Iran et qu'il faut arrêter tout ça. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une autre question, mais c'est clairement dans la stratégie iranienne de tenter de mettre des pressions politiques et économiques.
Oui, je dirais d'autant plus avec les sondages qui sont sortis ce week-end où les Américains désapprouvent à 43% l'intervention en Iran. Donc, c'est une façon justement de faire plier Donald Trump.
Oui, tout à fait, parce que l'Iran, de mon point de vue militaire, est incapable de repousser les Américains, mais en utilisant une stratégie économique et politique, ils ont peut-être une chance là, de forcer l'administration Trump à arrêter les attaques et d'essayer de la voie diplomatique.
Éric Ouellet est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Merci beaucoup, Éric, pour ton temps précieux, et c'est certain qu'on se reparle cette semaine.
D'accord, à la prochaine.
Merci, Éric Ouellet, toujours intéressant à entendre. Ce que je retiens, Pascal, c'est que ça va peut-être prendre plus que 4 à 5 semaines, comme Donald Trump l'avait dit.
Surtout si on arrive en matière économique, mais peut-être un peu moins en matière militaire, si on le veut, de cette manière-là. Est-ce qu'on va continuer? Oui, mais peut-être pas aussi longtemps en matière militaire versus de prendre des stratégies économiques. On parle du pétrole, on parle de l'armement et tout ça. Mais l'Iran, puis on l'a fait répéter 2-3 fois, fois, l'Iran est un peuple résilient et oui. pas nécessairement très prêt en offensive militaire. Israël est l'une des plus grandes forces technologiques qui existent dans le monde. Puis on sait maintenant, la guerre, comment elle se fait? Bien, elle se fait aussi en partie de façon technologique. Ça doit faire peur, je pense, à l'Iran et groupes alliés et tout ça. Puis les États-Unis aussi, on en a quand même beaucoup dans la poche. Là. C'est plus la place du Canada, moi, que je vais surveiller dans les prochaines heures, mais plus dans la prochaine semaine. Je pense qu'on va être capable de se fixer un peu, parce qu'on n'est plus aussi attaché en termes de défensive aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump. Je pense que ça va être très intéressant à suivre.
Ouais, cependant, je fais même petit 2$ à mettre. Moi, je pense que Mark Carney va continuer son soutien à Donald Trump, pas mal certain de ça, compte tenu que le régime iranien là, était un régime qui était décrié mondialement pour être à la rencontre de son peuple. On l'a vu lors des dernières manifestations.
Il pourrait peut-être juste faire attention dans la manière dont tu vas le faire, peut-être un peu moins agressif ou encore positionné qu'en fin de semaine si jamais la matière économique entre en ligne de compte.
Toi, t'étais froissé par ça? Moi, ça me froisse pas.
Non, pas du tout. J'ai été surprise. Surprise parce que ça positionne Mark Carney dans un air d'aller beaucoup plus militaire, donc celui mm-hmm. que les États-Unis ont choisi, ce qui n'est pas nécessairement la reconnaissance du Canada depuis toujours en termes de guerre. Fait que c'était quand même quelque chose d'un peu plus prononcé que ce qu'on a vécu auparavant dans cette ère-là qui est plus particulière avec le Moyen-Orient. Et au niveau économique, on essaie le plus possible de ne pas avoir de répercussions. Fait qu'en ayant des propos aussi clairs, ça fait en sorte qu'il y en a qui pourraient se retourner vers nous en disant « Bien, vous appuyez tellement que vous aussi, vous aurez ces conséquences-là. » En même temps, le prix du baril, le baril Brent, qui a énormément monté, les prix sont fixes. Ça va être pour tout le monde. Là, ça va être des impacts économiques mondiaux. Mais c'est plus à ce niveau-là que je le trouvais plus prompt qu'on a déjà vécu des prises de parole de Mark Carney ou de d'autres premiers ministres auparavant.
Parlant du prix du pétrole, on va en parler avec Gabriel Jugard dans quelques instants.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
En attendant de parler à Gabriel Jugard, Pascal CV, tu veux bien nous faire les manchettes principales de l'actualité.
On s'en va ailleurs que ce qu'on vient de discuter, effectivement. Juste dire par contre que Trump a refusé d'exclure l'envoi de troupes au sol, ce qui ferait en sorte de devenir un combat beaucoup plus militaire que juste un combat de « je vous avertis que » avec drone et peut-être... armement au niveau de l'air et de la mer. Procès pour diffamation. Il y en a un qui revient dans l'actualité, c'est le cardinal Ouellet. Il veut rétablir son honneur et comment il va le faire, c'est en justice. Donc, il y a une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par l'archevêque, que vous connaissez très bien ici à Québec et tout ça. C'était dans une action collective. Là, on ouvrait le procès civil en diffamation aujourd'hui et le cardinal Marc Ouellet veut laver sa réputation et donc réclame 100 000 $ à cette femme-là qui allègue dans l'action collective avoir été agressée sexuellement. Elle était à ce moment-là une employée pastorale. Elle s'appelle Pamela Groslo et c'est à elle que voit le procès civil visé. Ancienne agente de pastorale, comme je vous disais, mais c'était au diocèse de Québec. Et ce qu'on dit au niveau du cardinal, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention d'avoir des bénéfices matériels, que ça ne l'intéresse pas, mais le rétablissement de son honneur et de son intégrité, ça, c'est important. Pour lui. Des nouvelles de Claude Dubois, il a été opéré pour un cancer des cordes vocales. Ça s'est fait le 27 février dernier. Donc, l'auteur-compositeur-interprète de 78 ans va bien, on dit dans les circonstances. On a des nouvelles au niveau de son agence. Dossier qui fait beaucoup jaser, habituellement au printemps, ce sont les zones inondables au Québec. On a eu des catastrophes quand même assez poignantes, économiquement aussi dans les dernières années. Puis on se disait prêt à peut-être créer des cartes de zones inondables. Mais là, on est sans nouvelle entente avec Québec et les MRC refusent de créer ces cartes-là. C'était dans le cadre d'un nouveau cadre réglementaire qui est entré en vigueur hier et qui va devoir s'appuyer sur les anciennes cartographies dans ces secteurs-là avant qu'on ait des ententes conclues.
On s'en va rejoindre Gabriel Jugard, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, est-ce qu'avec le conflit en Iran, je dois craindre de voir le litre d'essence aller tout près du 2$ du litre?
Ben, malheureusement, je pense que c'est assez clair qu'avec le conflit en Iran, le coût de l'essence devrait augmenter, notamment à la vue de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Donc, on s'en sort pas, malheureusement. Je pense que tout le monde l'avait compris en fin de semaine quand on a vu là l'attaque qui s'est passée en Iran. Faut comprendre que rapidement, l'Iran, la façon qu'elle a réagi, c'est quand même là d'attaquer le Qatar, d'attaquer également l'Arabie Saoudite. Fait que tu sais, le Qatar, c'est quoi? C'est l'un des deux plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié, là. L'Arabie Saoudite, c'est au niveau du pétrole. Fait que c'est pas pour rien que ce matin, on se réveille et wow, augmentation du prix du baril du pétrole. En Europe, c'était 45% d'augmentation sur le prix du gaz à un moment donné. Donc, il y a un impact important là, sur l'énergie mondiale.
Il n'y a pas de doute. Est-ce que le côté économique peut être un côté qui va faire flancher Donald Trump à un certain moment? Parce qu'on parle d'inflation qui pourrait aller au-dessus du 4 % aux États-Unis. Donc, je reviens au sondage que je parlais avec Éric Ouellet où les Américains sont en défaveur et c'est trois sondages qu'ils disent. Est-ce que les Américains se mettent à tirer le diable par la queue, comme on dit? Ça peut faire flancher le président?
Ben, c'est ça qui va arriver, là. C'est parce que si on a une augmentation importante du prix du baril du pétrole, ben, par extension, les Américains partout aux États-Unis vont aller tanker leur voiture, puis ben, ça va coûter plus cher, là, puis de beaucoup le gallon. Donc, il va y avoir un impact. Il y a un impact sur tout. Parce que, tu sais, il faut comprendre que l'alimentation, il n'y a plus personne qui livre ça à vélo, là, sauf peut-être certaines personnes sur le plateau Mont-Royal, là, mais globalement, c'est en trotte que ça se fait, là. Puis ça prend du diesel, ça prend de l'essence. Ben, ça va augmenter le coût de tout. Donc, effectivement, les Américains ne seront pas contents nécessairement de cette approche-là. A priori, avant que l'essence augmente, peut-être qu'ils vont se dire ben « Regarde, là, c'était un dictateur tout croche. » Ça se peut qu'il y en a qui se disent ben, « Ça me dérange pas trop. » Mais au final, quand ça commence à attaquer notre portefeuille, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon dont on vote et ça pourrait peut-être impacter également là, les élections de mi-mandat. Donc effectivement, JF, tu as raison de le mentionner, ça peut avoir un impact sur l'inflation. Puis ça va faire mal. Au Canada, il faut juste se rappeler, au Canada, on a une industrie pétrolière très forte. Donc en tant que consommateur, ça fait mal. Sur le plan des revenus gouvernementaux, il faut rappeler que ce soit l'Alberta, que ce soit le gouvernement fédéral, il peut y avoir un impact positif là-dessus. Mais soyons clairs, là, nous autres qui faisons des voyagements, là, Montréal-Québec, par exemple, ça va coûter pas mal plus cher.
Mais ça, Gabriel, c'est un point intéressant aussi parce qu'en pandémie, il y a eu des répercussions au niveau de l'inflation. Puis, ça n'a pas été aussi impacté et grand qu'on le pensait parce que le prix du baril du pétrole était resté quand même assez bas. Ce qui fait en sorte qu'on la connaît, l'inflation, on y goûte avec l'alimentaire et autres, mais pas à l'échelle qu'on aurait dû y goûter si le prix du baril de pétrole était un peu plus haut. Il est plus bas dans les dernières années que ce qu'on aurait pensé. Là, avec les répercussions au Moyen-Orient, il risque d'augmenter. Tu parlais d'inflation au niveau mondial, mais ce qu'on risque aussi de regoûter, c'est des retards dans les chaînes d'approvisionnement. Et ça touche l'économie centrale mondiale, encore une fois. Automobile, électronique, agroalimentaire, il y a quelque chose là aussi.
Eh bien, il y a quelque chose là, absolument. Puis tu as raison de dire que dans les dernières années, Pascal, l'inflation, notamment au niveau de l'essence, était moins forte. Là. Quand on s'en va sur Statistique Canada puis on regarde la progression des prix, des données qui sont accessibles, on voit là qu'en janvier 2026, on paye moins cher le litre d'essence qu'en janvier 2025. Donc, il y a même une diminution là, la réduction du prix à la pompe. Par contre, je pense que tout le monde va se rappeler en 2022, là, je fais un gros saut en arrière, là, mais avec l'invasion en Ukraine, là, quand vous allez faire votre plein de char puis ça coûtait plus que 2$, ça avait frappé l'univers, là, mon Dieu. C'est vrai que les conflits là, puis la géopolitique peut avoir un impact très important sur le prix de l'énergie. Puis là, ben, je dis pas qu'on s'en va vers ça, mais effectivement qu'on pourrait voir quand même une augmentation assez importante du prix à l'essence. Donc concrètement, ça peut faire mal au portefeuille. J'en profite parce qu'au Québec, nous, on a une bonne grosse taxe sur l'essence provinciale, puis le gouvernement, il aime cette taxe-là, 19,2 cents le litre. Si ça commence à augmenter, là, la taxe sur l'essence, j'avais trouvé ça très dommage en 2022 que le gouvernement du Québec s'est dit « Moi, je bouge pas. Moi, c'est comme ça, puis je ferai rien. » Tandis qu'en Ontario, on l'avait suspendu, il était 9 cents, mais on l'a suspendu. En Alberta, on l'a suspendu et ça a donné plus d'abordabilité pour les conducteurs qui en arrachent. J'espère que si ça arrive, le gouvernement du Québec va avoir l'ouverture et la présence d'esprit de comprendre que nous, en tant que consommateurs, on a besoin d'un peu d'air. Si l'augmentation de l'essence est importante, on dépense 1,60 le litre, il va falloir là, qu'on agisse sur la taxation. Là.
Ah, Gabriel Giguère, je t'apprécie tellement lorsque tu ramènes toujours ça à notre gouvernement et leur pouvoir qu'ils ont de nous permettre d'avoir plus d'argent dans nos poches. On parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, je t'amène sur un autre sujet. Grosse visite de Mark Carney qui est passé sous le radar en raison de ce qui se passe à l'Iran en Inde. On a tisser des accords commerciaux, notamment pour le gaz naturel, notamment pour l'uranium. Qu'est-ce que tu retiens de cette visite-là et de ces accords-là de Mark Carney?
Je pense que c'est une bonne chose. Là. T'sais, l'Inde, c'est vraiment une puissance mondiale en pleine ascension. On consomme beaucoup d'énergie. Puis quand on regarde ça à froid, qu'est-ce qu'on consomme en Inde? 46 % de leur bouquet énergétique, c'est du charbon. 27 % du pétrole. Donc, tu as plus que 70 % c'est pétrole et charbon. Ils ont besoin de réduire leur GES en matière de bouquet énergétique. Le Canada, enfin en 2025, et ça, c'est tardif, là, soyons clairs, ont leur premier port terminal pour exporter du gaz naturel liquéfié dans l'Ouest canadien. Et là, on se dit, ben on va en avoir d'autres qui vont sortir. On a besoin d'exporter ça en Inde. Ils veulent plus d'énergie. Le gaz naturel, c'est 2 fois moins polluant que le charbon. Et leur mix énergétique est composé seulement à 5 % de gaz naturel. 5 % au lieu de 47 % de charbon. Je pense que le Canada a de la place pour exporter et pour contribuer au développement de l'Inde puis à l'enrichissement canadien.
Est-ce que Mark Carney est en train de jouer ses billes pour faire en sorte que peu importe le prochain gouvernement au Québec, on n'aura pas le choix de développer le fameux projet GNL Québec?
Ben, écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, parce que là, on parle de l'Inde, puis c'est super intéressant parce que ça nous démontre à quel point on a une demande importante sur le plan énergétique, notamment du gaz naturel. Mais si je fais un petit parallèle rapide avec notre premier sujet, l'incertitude géopolitique démontre aussi l'importance pour des partenaires, notamment européens, d'avoir d'autres, d'une diversification des approvisionnements. Parce que si vous vous approvisionnez juste au Qatar, ben vous avez le détroit d'Ormuz, puis vous avez l'Iran qui va peut-être vous bombarder comme on a vu hier matin ou ce matin. Bien, ça fait en sorte que vous avez besoin de ressources naturelles provenant de partenaires fiables. Les États-Unis seulement, c'est un partenaire fiable, mais il y a de l'incertitude. Le Québec est beaucoup plus fiable, je pense, pour des partenaires européens. Donc, pour répondre à ta question, hein, j'ai fait un long détour, mais là, on revient rapidement. Je pense que c'est important. Je pense très certainement que le prochain gouvernement du Québec, lui, il arrive en poste là, et il a une occasion en or pour nous enrichir collectivement et répondre à la demande mondiale.
Puis l'Inde, qui est la 5e économie mondiale, qui est le pays le plus peuplé au monde. On parlait de 1,4 milliard, si je me rappelle bien, lorsqu'on a fait l'annonce. 1,4 milliard d'habitants. Puis la population est vraiment jeune, ce qui fait en sorte que c'est une main-d'œuvre qui est abondante. Marché intérieur immense. Alors, c'est un partenaire fiable pour les prochaines années. Mais je fais une autre parenthèse avec ce que tu as dit, puis le conflit qu'on connaît actuellement au Moyen-Orient, dont on parle depuis plusieurs heures. L'Inde s'est prononcée et a appelé au dialogue pour résoudre la crise au Moyen-Orient dans les dernières heures et le demande de façon claire, nette et précise parce que pour eux aussi, ça augmente les tensions et ça amène des problèmes sous-jacents aussi dans leur pays. Puis ils voulaient être en croissance économique importante. Puis ça, je pense que ça peut créer un conflit. Quand l'Inde se prononce dans des tensions internationales, ça veut tout dire.
Je pense qu'effectivement, ça démontre là, leur volonté à de la stabilité, parce que qui dit stabilité dit bon développement économique aussi. Là. C'est sûr que quand on est en guerre, c'est pas intéressant comme dynamique. Et donc, Mark Carney qui s'en va en Inde, là, ça fait partie d'une vision beaucoup plus large que juste l'Inde et le Canada. Ça fait partie de la vision, là, on s'en est parlé beaucoup en 2025, là, mais de se dire il faut diversifier nos partenaires commerciaux, parce que 3 $ sur 4 d'exporter, hein, en matière de valeur, c'est aux États-Unis. Donc l'objectif, c'est de doubler les échanges commerciaux avec l'Inde, mais ça, plus largement, c'est également de doubler l'ensemble des exportations pour réduire la dépendance. On le sait qu'au Canada, on exporte beaucoup d'énergie comme le gaz, le pétrole. On exporte également des produits, des minéraux critiques, mais aussi de la mine. Donc, il faut vraiment s'assurer de miser sur ces partenaires commerciaux-là parce que ça nous permet d'avoir plus de débouchés, mais ça prend plus d'infrastructures. Donc, il va falloir en construire des pipelines, il va falloir en construire des terminaux de gaz naturel liquéfié. Et ça, va falloir que le gouvernement... je pense que le gouvernement du Canada commence à le comprendre, là, l'urgence
vraiment
de la chose. Mais le gouvernement du Québec, on est où? Je l'attends.
En plein ça, le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britannique également. Gabriel Giguère, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu es analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. On se tient au courant parce que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de tergiversations sur les marchés cette semaine.
Absolument, bonne journée.
Salut Gabriel, bonne journée. Gabriel Giguère qui fait entendre sur nos ondes normalement le jeudi pour une chronique en lien avec un sujet que l'Institut économique de Montréal met dans l'actualité. Mais là, aujourd'hui, c'est très important de lui parler avec le coût du pétrole.
Je trouve ça le fun aussi qu'on ait glissé un mot sur l'Inde. Hein. C'est une des plus grandes armées au monde qui existe. On possède l'arme nucléaire au niveau de l'Inde, ce qui est pas mal discuté.
Oui, oui.
Puis on fait jamais le petit croche vers eux. Hein.
On a fini les déguisements à Justin Trudeau, puis on fait de la business. Parle-moi de ça.
Influence stratégique aussi. Ouais. En Asie. Puis, ils ont des rivalités qui ressemblent à celles des États-Unis, voire aux nôtres. Leur rivalité est quand même importante avec le Pakistan, mais avec la Chine aussi.
Mm-hmm.
Fait que ça nous fait un allié aussi idéologique.
Exactement.
Qui est important.
Après la pause à l'émission, on en jase très, 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 très courte pause. C'est Luc Laliberté. Là, on a fait le tour avec Éric Ouellette de comment ça se passe au niveau militaire. On a fait le tour avec Gabriel Giguère du conflit Iran avec Israël et États-Unis, les répercussions économiques. Là, on va parler de politique intérieure américaine avec Luc Laliberté, excellent chroniqueur sur nos ondes. Dans un instant, Boulevard 102 à l'émission, on en jase. Émission en jase sur Boulevard 101, il est précisément 13h12. Vous le savez, vous pouvez nous écouter via notre application BLVD 102.1, blvd.fm, vous avez la web radio. Et vous pouvez venir nous voir également sur twitch.tv/BLVD/FM. On vous offre à Boulevard 101 des excellents podcasts et il y a une nouvelle série qui commence, c'est-à-dire Histoire d'entrepreneur. C'est la deuxième saison avec Joanie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Donc, c'est diffusé sur BLVD 101 et disponible sur YouTube et les plateformes de streaming le lendemain. Ce podcast s'adresse à tous ceux qui se demandent pourquoi devenir entrepreneur. Puis moi, Pascal, les entrepreneurs m'ont toujours impressionné par leur esprit d'initiative, leur débrouillardise, leur idée originale. J'ai pas cette fibre-là, moi.
Leur courage.
Leur
aussi.
Courage de tout courage. Miser. Oui, mais c'est tout sur leur idée.
Il y a moi, tout à un ou deux ou trois sur quatre, mettons, qui vont dire « Ah, moi, j'avais rien, j'avais pas une scène, puis je me suis mis dans le trou pareil pour essayer de penser que mon idée pourrait se réaliser. »
Exactement. On y va. Premier épisode, 19h ce soir sur les ondes de Boulevard 102.1. Joanie va s'entretenir avec Jean Martin, membre du groupe Martin, qui possède les restaurants Saint-Hubert, ainsi que Jonathan Martin, membre de La Relève, qui a repris les rênes. L'histoire du groupe Martin est un véritable succès de reprenariat sur plusieurs générations, à une époque où la relève entrepreneuriale est difficile à trouver. Et ce podcast est présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, rencontrez-en un qui va le faire. Équipe marcantoinereed.com. On saute immédiatement à nouveau dans le dossier de l'Iran. Cette fois, on va aller parler de politique interne américaine avec notre chroniqueur en politique américaine, Luc Laliberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais toujours, si on fait abstraction de la scène internationale et des nouvelles qu'on couvre, égoïstement, je vais très bien.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même assez perturbant ce qui se passe. Luc, j'ai été surpris hier de voir que quand on met trois sondages ensemble aux États-Unis, ouais. 43% des Américains sont contre l'intervention en Iran, 29% ne se positionnent pas et 27% sont dans le camp du oui. J'ai été surpris de voir que cette intervention-là contre des extrémistes religieux musulmans n'a pas plus la cote aux États-Unis.
Ben, écoute, il faut se souvenir, ne serait-ce que de ça, en partant. Les Américains ont donné pour l'Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Les Américains ont donné pour l'Irak. Ça fait pas tant d'années que ça non plus.
En effet.
Et il y a toujours, ça plane sur à peu près toutes les interventions. Ce que les Américains avaient fait au Vietnam pendant des années. Et c'est toujours ce fantôme-là qui revient hanter toutes les opérations américaines. Donc, puis en Afghanistan, il faut se rappeler, non seulement on était là longtemps, il y a eu des pertes de vie humaine, on a fini par ramener le régime qu'on avait chassé plus ou moins, là, leur redonner le pouvoir, et une sortie de piste qui avait été dramatique. Ça s'était préparé sous Obama, sous Trump, et finalement, tout ça était devenu opérationnel sous le président Biden, mais ça avait été horrible comme sortie, puis on nous ramenait encore les images il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a les différentes interventions, l'idée qu'on envoie les Américains potentiellement, maintenant on sait que c'est vrai, mais potentiellement mourir aussi pour intervenir dans un autre pays. Et combien d'Américains avaient voté pour Donald Trump en se ramenant toujours à un des arguments du président que lui ramènerait les États-Unis, entre guillemets, à la maison, ou ramènerait les boys, les soldats américains à la maison. Alors que là, ce qu'on voit, bon, on l'a vu au Venezuela, on pense que ça pourrait survenir pour Cuba. L'Iran, ben, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus lourd comme intervention, puis ça risque de durer également un peu plus longtemps. Donc, moi, j'étais moins étonné par ça, même si je pense, et on pourrait faire un sondage avec les auditeurs, je pense qu'on arriverait là aussi, c'est j'ai aucune peine, personnellement, puis je pense pas que les Américains soient chagrinés de voir disparaître quelqu'un comme Khamenei, par exemple, ou que le président dise, ben finalement, on va le faire tomber, ce régime-là, qui, de manière très brutale, excessivement brutale, maintenait sa population et maintient encore, semble-t-il, sa population sous contrôle. Maintenant, est-ce que c'était aux Américains de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à investir là-dedans au moment où la grande priorité demeure? Ce qu'on appelle maintenant, c'est devenu le terme presque consacré, l'abordabilité. C'est quand on met les factures sur la table ou sur le chiffrier Excel ou qu'on veut payer nos comptes à la fin du mois, mm-hmm. Est-ce que ça pressait tant que ça, finalement, d'aller en Iran, ou si on n'est pas mieux de nous donner plus de garanties ou d'investir plus d'efforts pour que ça nous coûte moins cher, pour qu'on ait l'impression de boucler le budget à la fin du mois.
Celui qui a mené d'une main de fer, disons-le comme ça, l'Iran pendant plus de 37 ans a été abattu. On nous dit que, contrairement à François Legault, il avait pensé à sa relève, elle était même organisée et qu'elle existe et elle est vivante du côté de l'Iran. Mais pour cette transition-là au pouvoir, on peut s'attendre à quoi? Puis est-ce que la stratégie de Donald Trump de dire « je vais vous proposer quelqu'un pour la tête de l'Iran et vous devez nous écouter si vous voulez que militairement on n'intervienne pas » pourrait fonctionner?
Ouais, écoute, ça va être, et je n'ai pas de boule de cristal là-dedans. Première chose, première nuance, Donald Trump a dit, nous, on voulait retirer finalement tout ce qui était la tête, tout ce qui était les dirigeants de ce régime-là. Puis finalement, il l'a dit, pour un président américain, c'est candide comme réponse considérant la gravité de l'intervention. Il a dit, finalement, on a eu tellement de succès qu'on a fait tomber ou rouler beaucoup plus de têtes que ce qu'on pensait. Sous-entendu, ben, la relève, elle est moins évidente à mettre en place. Et quand on parle de succession ou de changement de régime, il y a, il me semble, à la lumière des quelques jours qu'on a maintenant de frappe sur l'Iran, il y a une grande différence entre ce qu'on a fait au Venezuela, où essentiellement on a retiré Maduro, mais on a laissé le groupe que Maduro avait en place. Donc, on n'a pas vu de changement de régime en profondeur, puis il semble qu'on s'aligne avec les États-Unis, même si à l'occasion, il y a des notes discordantes. En Iran, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Et il y a quelque chose qui me semblait un peu dur ou même cruel à très, très court terme, c'est que le message qu'envoie le président Trump, c'est « ben là, on vous a aidé, on vous avait dit il y a plusieurs semaines, help is on his way or on the way, là, on vous envoie de l'aide ». Mais il confie le mandat finalement aux Iraniens eux-mêmes d'achever le travail et de se donner un nouveau régime. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais combien de milliers d'Iraniens sont déjà morts hein, en osant manifester, en osant sortir dans la rue? Un des paris que prend Donald Trump, à moins qu'on ait d'autres étapes qui n'ont pas été annoncées encore, mais le pari autant à l'international qu'en Iran, qu'à l'intérieur même des frontières du pays, c'est une certaine forme de chaos. Et comment on va gérer ça à partir de là, alors que le président nous a annoncé d'ailleurs, on n'est pas fermé à ce qu'il y ait des « boots on the ground », à ce qu'on envoie des soldats sur le terrain, mais essentiellement, ce sont des frappes dont on parle. Et tout le monde, je pense, c'est un consensus quand on constate les différents commentateurs ou analystes, on ne peut pas avoir un changement de régime à partir de bombardements. Ce n'est pas des drones ou ce n'est pas des missiles qui vont provoquer un changement de régime, ça prend plus que ça. Et je suis
c'est
pas
de prendre le terrain en tant que tel sur le sol, là, dans le fond, c'est ça que ça prend si on veut avoir vraiment un changement de régime?
Ben c'est ça. Il faut qu'on ait une présence. Soit on a déjà un canal à l'intérieur du pays et on sait vers qui on va se tourner. On sait de qui on va faciliter la progression ou le travail. Ça se passe quand c'est une faction armée, par exemple, qui contribue au renversement. S'il y a des forces armées à l'intérieur du régime, ben eux déjà sont sur le terrain et les Américains l'ont déjà fait d'ailleurs et pas que sous Trump, ça s'est fait bien avant ça. Mais on peut ensuite arriver avec un appui aérien, une couverture aérienne. Mais pour l'instant, on voit pas de lien direct entre Khamenei et plusieurs autres ne sont pas là et ce qu'on va avoir et ce qu'on va mettre en place. Donc c'est une facette, moi, c'est une des choses que je surveille, c'est presque d'heure en heure depuis que les Américains ont tiré, ou les Italiens d'ailleurs, ont tiré la première fois, c'est est-ce qu'on en sait plus sur la finalité ou l'objectif? Et même à l'intérieur de l'administration américaine, si on écoute le président Trump, et j'écoutais un peu plus tôt aujourd'hui Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous Donald Trump, mais même lui disait pas tout à fait la même chose que le président. Il laissait une porte ouverte, il voulait pas contredire le président, mais on n'entendait pas tout à fait la même chose.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine sur les ondes de Boulevard 101. Vous pouvez également le voir sur plein d'autres canaux, notamment sur le réseau LCN. Luc, est-ce que Donald Trump, puis là on s'entend, on l'a dit tout à l'heure, personne ne va pleurer la mort de Khamenei, ce dictateur qui a tué des centaines de milliers de ses confrères, donc c'est-à-dire de ses citoyens. Par contre, est-ce que Donald Trump va à l'encontre de ce qu'il avait prôné avec son intervention au Venezuela, c'est-à-dire le fameux Donro? On va m'occuper de l'Amérique, occupez-vous du reste. Mais là, deux mois plus tard, il s'occupe du reste aussi.
Voilà. Et non, pour répondre à ta question, c'était une très bonne question. Pour répondre à ta question, il ne va pas à l'encontre de la politique parce qu'on avait dit, on se laisse quand même sur la scène internationale des endroits, des cibles privilégiées pour assurer la sécurité des États-Unis. Ce qu'on a dit, par contre, qui est distinct de ce qu'on, d'autres interventions qu'on a eues, par exemple, on est revenu beaucoup, autant le président Trump que le secrétaire à la Défense sur l'Irak, il a dit ce qu'on appelle en anglais le « nation building », hein, c'est rester sur le terrain, ce qu'on a fait en Afghanistan, ou tenter de faire en Afghanistan, c'est-à-dire rester en place pour appuyer un régime politique, mais sur le terrain, ça, on ne veut plus faire ça. Mais si on regarde, parce qu'en droit international, puis même aux États-Unis, on débat ces jours-ci. Moi, je pense que c'était le temps que Khamenei, et c'était même le temps depuis un certain temps que Khamenei ne soit plus là, mais ça va quand même débattre en droit international de qu'est-ce qui justifie une intervention comme celle-là et est-ce que ça pourrait se reproduire ailleurs? Parce que là, ça tombe sur, entre guillemets, si on caricature, ça tombe sur un méchant, on s'entend. Est-ce qu'on peut répéter ça ailleurs, puis à quelles conditions? Donc, ça pose des problèmes éthiques, moraux, juridiques, mais même aux États-Unis. Une des réponses qu'on va avoir ces jours-ci aux États-Unis, c'est est-ce que le président, en faisant ça, n'a pas outrepassé ses droits? C'est pas le premier à y aller de frappe, puis c'est pas le premier à le faire cavalièrement, à dire au Congrès, bien, écoutez, on a frappé. M. Trump ou le président américain n'ont pas pris la peine d'avertir même tous les législateurs. Il y a ce qu'on appelle la gang des huit aux États-Unis. Il y a un certain nombre de représentants, de sénateurs plus précieux ont été informés de ce qui s'en venait. Mais en même temps, on l'a vu pour les tarifs, on l'a vu pour d'autres questions. Si ça se prolonge, et le président dit que ça pourrait aller jusqu'à 4 semaines, est-ce qu'à un moment donné aussi le président n'a pas à rendre des comptes au Congrès? Et ça va placer, encore une fois, plusieurs législateurs dans une drôle de position. Mais donc, Donald Trump n'a pas trahi ses objectifs. Si on regarde la politique de sécurité nationale, il faudra voir maintenant les prochains pas, les prochaines décisions, les prochaines attaques, peut-être des alliances aussi éventuelles. Puis, ben, il va avoir à gérer un certain nombre de mauvaises nouvelles aussi. Il y a 3 chasseurs qui ont été abattus par erreur, par des tirs ennemis là, dans les dernières heures. Il y a des pertes de vie de soldats américains. Dans des frappes aériennes, on s'attend moins à ça. Donc, il va avoir à gérer cette question-là aussi face à une population américaine, tu le précisais très bien tout à l'heure, qui, au moins dans les 3 sondages, ceux dont on dispose jusqu'à maintenant, on dit on n'en veut pas de ça, nous. En tout cas, majoritairement, on n'en veut pas.
Peut-être en terminant, parce qu'il nous reste environ 2 minutes avec toi, Luc, j'ai amené une petite information ce matin à mon collègue Maxime Larouche parce qu'elle me fait bien sourire depuis plusieurs années. Ce serait peut-être drôle de terminer là-dessus. Drôle, mais en même temps intéressant au niveau de la stratégie. Depuis 1983, 89 même, on avait des alertes de franchise Domino's, Mark Mex, dans le temps, qui avait constaté qu'il y avait une augmentation de livraison de pizza puis de commandes de pizza près du Pentagone avant peut-être des services militaires importants ou des actions militaires importantes. On en voyait entre autres en 89, on en a vu en 90, en 98, en 2024, en 2025 et encore en 2026. Cette fois-ci, c'était à l'aube de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis. On avait fait une bonne quantité de commandes de pizza et encore une fois, dans les derniers jours, on a livré à toute heure de la nuit de la pizza au Pentagone ou dans ses environs. Dans les pizzerias qui sont autour, il y a des gens qui commencent à dire « Hey, mais ça donne souvent un indice sur ce qui peut se passer. » Écoute, en train de rire.
Non, c'est que c'est la première fois que j'entends cette information-là.
Ça s'appelle l'indice pizza, puis il y a même une application maintenant là-dessus.
Oui, mais je trouve en même temps, là où je ris, c'est que parfois on dit « ben c'est couvert d'un halo de mystère, oui. On garde le secret comme cette opération-là. » On est resté très, très, très discret. On a protégé l'information. Mon réflexe ou mon sourire, c'était comment se fait-il qu'ils n'ont pas pensé à ça aussi? Si on est capable, à partir des pizzerias avoisinantes, de planifier la stratégie du Pentagone ou de la deviner. Donc, écoute, je vais me mettre à surveiller moi aussi l'indice pizza maintenant à l'avenir. Ça fera partie de mes sites, mes onglets préférés dans mes recherches.
Ça m'aura fait plaisir.
Une chose certaine, si la guerre en Iran va amener une hausse du prix de pétrole, les pizzerias, eux autres, fêtent et jubilent parce que ça leur amène une hausse de leur chiffre d'affaires. Luc, la liberté est toujours un bonheur de te parler. On se garde au courant parce que ce sera une semaine, évidemment, très faste en politique américaine et internationale.
Bon après-midi à vous deux. Bon après-midi aux auditeurs, auditrices. Bye.
Salut, Luc. Bon après-midi. Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine.
Tu ris, là, mais 27 janvier, Les commandes de pizza ont grimpé de 167 % chez Papa John's à quelques kilomètres du Pentagone. Puis le 28, très tôt, dans la matinée aux États-Unis, Trump publiait un message puis disait qu'il allait avoir une armada américaine qui faisait route vers l'Iran. Puis encore, la semaine passée, fin de la semaine, début de la fin de semaine, t'avais une augmentation en pleine nuit de commandes. Il y a quelque chose de comique, mais en même temps, d'intéressant, parce que tu dis effectivement, c'est pas trop subtil.
Ben avec Donald Trump qui veut faire plusieurs interventions, c'est fait, je m'en vais m'ouvrir une pizza.
C'est payant.
À Washington, près du Pentagone. On va revenir sur le plancher des vaches, comme on dirait, Pascal, parce qu'on va parler du Vieux-Québec au retour de la pause avec Mathias Turcotte. Polémique lancée par le comité de citoyens. Les commerces laissent leurs portes ouvertes en hiver. Puis là, ben, pendant qu'on me demande de partir mon lave-vaisselle à 1h du matin, ben, les commerces laissent leurs portes ouvertes. Fait que je suis insatisfait, puis je le crie haut et fort à l'hôtel de ville. On a-tu raison de crier haut et fort pour ça? On a notre petite idée, mais Mathias Turcotte va venir nous présenter le dossier au complet dans un instant à Boulevard 102 à l'émission On en jase. Exactement 13h33 à l'émission On en jase. À la météo, je vous le rappelle, c'est la journée froide. Frette, comme dirait l'autre de la semaine. C'est moins 21 avec le refroidissement éolien présentement. Moins 11 au thermomètre. C'est pas mal le maximum pour la journée. Mais dès demain, moins 1 généralement ensoleillé. Mercredi, 5 degrés alternance de soleil et nuages. Et moins 5 avec 60 % de possibilité d'averse de neige pour jeudi. Donc, on aura des températures très clémentes pour cette belle semaine de relâche pour nos enfants à l'école qui avaient besoin un peu de repos. La page YouTube, abonnez-vous. La page YouTube de Boulevard 101, vous pouvez voir des exclusivités, notamment nos podcasts. Je le rappelle, podcast d'entrepreneurs avec Joanie Fortin. Ce soir, 19h, on parle avec Jean Martin et son fils du groupe Martin, qui a possédé des Saint-Hubert. Donc, vraiment une histoire hallucinante de réussite. Et aussi, bien, vous pouvez voir le caucus avec Antonine Iaccarini, qui est déposé à cet endroit à chaque jour. Pascal, avant que Mathias nous parle des vrais dossiers, là, ce comité de citoyens-là, qui n'en veut plus de moto, il n'en veut plus d'autobus, d'autobus avec les touristes. Là, ils n'en veulent plus de portes ouvertes dans leur quartier. T'es des bons dossiers pour que le Vieux-Québec soit en santé financièrement. Résume-nous donc l'actualité, s'il vous plaît.
Deux départs en politique. Alors, Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont, annonce qu'il ne va pas être candidat aux prochaines élections générales. Même chose du côté de Caroline Proulx au sein de la CAQ. Qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas se représenter. Alors, c'est la fin pour ces deux personnages de la politique. Un dossier qui a fait beaucoup réagir au niveau financier, la monnaie royale canadienne qui a facturé 350 000 $ pour des voyages l'an dernier. Alors ça, c'est sorti grâce au constat du bureau d'enquête, alors du Journal de Québec. Mais les grands patrons de la Société d'État ont assisté en avril dernier, entre autres à une conférence des directeurs de monnaie, et c'était au Cap en Afrique du Sud. Alors, facture assez salée, un coût assez salé pour cette gang-là d'administrateurs, tiens, disons-le, ben oui, du pays.
Mais on a gagné des prix.
Écoute,
on est bien.
Face aux tensions qui sont assez croissantes là, entre l'Iran et les États-Unis, je pense que vous n'êtes pas sans savoir. Là, on est à des centaines de sites qui sont frappés en Iran. On est dans les répliques également. Dubaï qui a été frappé, chose qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Est-ce que d'autres pays sont frappés de cette manière-là? Un endroit très sécuritaire dans le monde. Eh bien, il faut savoir que notre premier ministre, Mark Carney, réagit. Et autrement, il pourrait aussi jouer un rôle plus important une fois le conflit résolu. On est déjà dans le après, tellement qu'un ancien conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, Jocelyn Coulon, qui lui considère que l'action canadienne demeure restreinte actuellement, mais pourrait prendre beaucoup d'ampleur par la suite, même de l'ampleur qu'on n'a jamais vue auparavant. Procès pour diffamation, le cardinal Ouellet veut rétablir son honneur. Alors, il ne dit pas que c'est des sommes d'argent qui l'intéressent là-dedans. Il dit que c'est vraiment le fait de ramener son honneur sur la table, mais il réclame 100 000 $ à une femme qui allègue dans une action collective avoir été agressée sexuellement par l'ancien haut dignitaire de l'Église. Catholique.
Le comité de citoyens du Vieux-Québec se cherche un nouveau combat et ils l'ont trouvé. Les commerces ouvrent leurs portes à l'hiver. Ils laissent la porte ouverte. Mon Dieu Seigneur, Hydro-Québec nous dit de pas faire ça. Pourquoi ils le font? C'est le dossier du Soleil d'Émilie Pelletier ce matin. Et Mathias, t'as creusé le tout.
Oui, excellent. Excellent dossier d'Émilie Pelletier, d'ailleurs, ce matin. En gros, l'histoire, pourquoi ça a commencé, ça, les fameux commerces avec les portes ouvertes, on remonte au dernier conseil de ville. C'est M. Mas, qui est président, justement, du comité citoyen du Vieux-Québec qui a fait une intervention lors du conseil de ville en disant qu'il y a plusieurs commerçants qui laissaient leurs portes ouvertes tout au long de l'hiver, en plein hiver, pour attirer des clients, justement. Le soleil a poussé plus loin, s'est rendu compte qu'effectivement, c'était vrai, notamment sur la rue Saint-Jean, que cette pratique-là était extrêmement répandue. Les commerçants s'expliquent en disant que c'est pour attirer des clients. Forcément, ça crée beaucoup de réactions parce que là, on voit un gaspillage d'énergie. C'est pas nécessairement l'idéal non plus pour l'environnement, réchauffer l'extérieur, on va s'entendre. Donc, j'ai discuté...
On chauffe pas l'intérieur, comme disent nos parents.
Oui, c'est ça, exact. Fait que j'ai discuté avec Martine Gagné, qui est secrétaire du comité citoyen du Vieux-Québec, et Jean-François Barré, qui est propriétaire du pub Saint-Patrick et Murphy's, qui lui laisse ses portes ouvertes.
Exactement.
Justement. Fait comme ça, on a vraiment les deux côtés de la médaille. Pourquoi on critique? Pourquoi on fait ça? J'aimerais commencer tout d'abord par monsieur, justement, Jean-François Barré, qui a débuté l'entrevue en commentant, en disant que la décision, au final, pour lui, revient aux commerçants, puis c'est un peu une tempête qui ne devrait pas exister présentement.
Tout le monde perd son temps à discuter d'un sujet qui n'en vaut pas la peine. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux à discuter, outre celui-là, qui, pour moi, en étant juste qui appartient... C'est une stratégie qui appartient aux commerçants, s'il le veut, quand il le veut, pour pouvoir se montrer disponible aux passants, aux gens qui vont venir consommer dans le Vieux-Québec.
Je suis entièrement d'accord. T'sais, ça appartient à lui à savoir s'il veut payer plus d'hydro ou non, puis s'il est gagnant en bout de ligne de le faire. Et soit dit en passant, il est gagnant de le faire. Parce que moi, quand la porte est ouverte au Pub Murphy's, puis je passe, puis le chansonnier est en train de chanter, c'est clair que j'ai ma blonde. Ah ouais, on s'en va prendre une pinte.
Ben, il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes, par contre, qui ne sont pas d'accord avec toi, Jeff, malheureusement ou heureusement. Là, il y a plusieurs opinions dans l'espace public. Puis certaines des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, ben, c'est le comité citoyen actuellement. Puis Martine Gagné, justement, qui est la secrétaire, a commenté en disant que pour elle, les raisons que les commerçants utilisent pour expliquer leurs gestes ne sont pas acceptables.
C'est pas des raisons qu'on trouve qui sont acceptables, étant donné que c'est aussi des comportements ou des pratiques qui ne sont pas observées dans les autres secteurs, là, OK? Même dans le Vieux-Québec, là, c'est pas à la grandeur du Vieux-Québec, et puis dans les autres secteurs de la ville non plus, là. Mais je vois pas comment nécessairement une porte ouverte peut nécessairement inciter les gens à entrer, surtout quand il fait froid comme ça, là.
On chauffe pas le dehors. Mais on sait-tu c'est qui le premier qui a osé faire ça, puis après ça, les autres ont suivi?
Ben, non, mais c'est ça qui est intéressant que tu poses la question, parce que c'est vraiment sur la rue Saint-Jean, là, puis le soleil a comme investigué un peu partout à travers le reste du Vieux-Québec, à travers le reste de la ville, puis on s'est rendu compte que c'était vraiment là la concentration. Fait qu'on peut parler un peu d'un effet de groupe. Monsieur Barré s'est également tenté d'expliquer pourquoi c'est sur rue Saint-Jean. Il y avait certaines hypothèses à lui.
Peut-être que les commerçants dans le Québec ont développé une culture d'accueil différente. Je ne sais pas, je ne suis pas commerçant ailleurs, mais cette pratique-là, elle existe depuis des années. Vous savez, les passants, touristes qui ne connaissent pas nos commerces, ben, ils ont peut-être avantage à voir des portes ouvertes pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, pendant l'hiver, on n'a pas le droit de, comme il se fait ailleurs dans la ville, partout ailleurs, on a le droit, dans la ville, on n'a pas le droit de mettre les petits chevalets. Les sandwichs, comme on appelle.
Et voilà la réglementation, les amis. La surréglementation, les panneaux sandwich, là, c'est les panneaux qui sont installés sur le trottoir.
Puis qui permettent de voir
ben
rapidement
oui, là, ça
en se promenant le commerce.
Hey, ça tombe bien entre 4 à 7, on a deux boréales pour toi au prix d'une. Puis là, tu dis, hein, ouais, donc je rentre. Hey, aujourd'hui, c'est spécial du smoke meat. Ça tombe bien, j'ai faim. Mais là, on n'a pas le droit de le faire.
Ben, c'est ça. Ben, ce qu'on explique, c'est le manque d'espace, de un, par rapport à la circulation pour les piétons. Également, ce qu'on dit, c'est pour l'aspect visuel, pour les touristes, ça rend la rue plus belle, plus vivante, j'imagine, de ne pas avoir ces fameuses
pancartes-là. Ouais, dans les autres villes ailleurs dans le monde. Là.
Ben, c'est ça.
Tout le monde ne peut pas mettre un sandwich parce que le visuel.
Ouais, pour vrai, tu vas en Europe, puis il y en a dans toutes les rues
oui,
touristiques.
Oui, tu vas à New York,
là,
il y en a partout. Tu vas à Boston, il y en a partout. Mais dans le Vieux-Québec... interdiction du panneau sandwich. C'est lettre!
Là, on parle beaucoup, justement, des touristes, parce qu'il y a ça aussi. On parle d'environnement et tout. C'est pas bon pour... c'est un gaspillage d'énergie d'essayer ses portes ouvertes en hiver. Par contre, Mme Gagné, qui est la secrétaire du comité citoyen, a voulu pointer une autre problématique, celle de l'image face aux nombreux touristes européens.
Oui, environnemental, mais aussi à l'image, hein, parce que c'est pas juste nous, admettons les Européens qui viennent ici. Ils remarquent ça aussi parce qu'en Europe aussi, l'économie d'énergie sont encore des fois encore plus avancées que nous de par les carences qu'ils ont par rapport à l'électricité. Moi, je pense que l'image aussi que ça projette du secteur, parce que c'est pas partout, c'est une rue en particulier, c'est pas une pratique en fait qui est louable là, par rapport à ce qui se passe ailleurs aussi là.
Pascal, moi, j'ai toujours entendu les touristes à Québec venir me voir et me dire hey, « ça n'a pas de bon sens, vous gaspillez même trop d'énergie à Québec, on ne pourra pas revenir. »
Tu dis qu'on n'en entend pas parler, c'est ça ton
la,
point.
La ville n'est pas
mais,
belle.
Honnêtement, tu ne trouves pas ça bizarre? Parce que pour vrai, je trouve ça bizarre que les portes soient ouvertes. Je pense qu'au niveau de la publicité maintenant, tu es quand même capable de sur les réseaux sociaux, etc. Ou aller... Mais une porte ouverte l'hiver, je me demande même, les gens à l'intérieur, ils n'ont pas froid. Je suis au resto, puis la
ouais,
porte
ouvre
3-4 fois.
Oui, mais ça dépend. Souvent, tu as un portique
mais
qui fait en sorte qu'il y a
des
une
draps,
porte,
mais
des draps.
Récemment, j'étais allée à Montréal. Oh, oui. J'ai mangé dans un resto avant de prendre l'avion. Mm-hmm. Puis il y avait justement ce portique-là, puis ce drap-là, chaque fois que la porte ouvrait. J'avais froid. Je cherche le pourquoi, le comment. Puis je veux pas faire une polémique avec ouais. ça. Je me demande juste d'où ça vient.
Ben, moi, je suis juste pour le vivre et laisser vivre. Si on a le goût de le faire, qu'ils le fassent.
Mais tu trouves pas ça un peu bizarre?
Pas vraiment.
Non?
Ben non. Eux autres, ils disent que ça va leur faire plus de business. Ben go, fais-le.
Écoute, je cherche pas à mettre Jésus sa croix, là.
Non,
avec
non,
cette...
non,
mais
non.
Je me demande vraiment pourquoi on ouvre la porte.
Puis en même temps, c'est légitime d'avoir certains questionnements parce qu'Hydro-Québec, présentement, font plusieurs publicités. Puis. Martel sur le message de
ouais,
ne pas gaspiller trop d'énergie.
Comité de citoyens de faire ce
questionnement-là.
J'ai l'impression que le comité de citoyens du Vieux-Québec sont toujours en train de mettre la marde pour les commerçants.
Je pense qu'ils ont cherché quelque chose.
Ah, ah ouais, ils sont brandés. Ah, la porte est ouverte. Ah, ouais, on va mordre là-dedans. Ah.
Mais faudrait savoir. Faudrait qu'on check. Honnêtement, chiot, faisons ça. T'es-tu game? On est capable avec Hydro-Québec d'aller voir les comptes okay, des dernières années. Puis combien ça coûte approximativement pour aller le comparer peut-être avec une autre rue
s'il y a vraiment une différence.
S'il y a vraiment une différence, parce que pour eux, ouais, je veux dire, ça coûte déjà cher en beau, ça coûte déjà cher de tenir la place.
Puis justement, M. Barré me le disait aussi que pour eux autres, au final, c'était pas une grosse dépense de plus okay. en termes d'énergie. Puis dans le compte Hydro, ça faisait pas vraiment une grosse différence parce que lui-même, il veut pas en payer plus. Jeff, t'en as parlé, des touristes, toi, t'as pas souvent entendu ça, des touristes qui
ben
se
plaignent. Ben non, mais les touristes qui viennent à Québec, ils disent « Hey, votre ville est belle, on aime ça, les fortifications, ça ressemble à une ville européenne, mais hey, vos portes sont ouvertes, je m'en vais en Inde!
Ben, »
C'est ça qu'ils me disent.
Ben, t'as eu la même réflexion que justement le propriétaire du pub Saint-Patrick et Murphy's.
Non, ben pas du tout, non. Je pense qu'on va un petit peu trop loin, là. Je pense que c'est pas une position qui est raisonnable du tout. Jamais, moi, des clients européens, Dieu sait qu'il y en a tous les jours qui rentrent chez moi, m'ont parlé de cette situation-là, mais jamais, 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 jamais. Ça n'existe pas là, dans notre quotidien, ces genres de réflexions-là.
Alors voilà, ça n'existe pas, ces réflexions-là. C'est le comité de citoyens qui décide encore de mettre du caca dans le fan, pour ne pas dire de la merde dans le fan, pour ses propres commerçants. Ça me désole complètement.
Je termine avec, pour terminer tout, là, parce que veux pas, Jeff, on a compris ta position, puis que toi, ça
ah
fait
oui?
ni chaud ni froid, je pense que oui.
Voyons donc!
Je pense qu'il y a certaines personnes, par contre, qui effectivement trouvent ça problématique qu'on laisse des portes ouvertes en hiver, puis je pense que ça témoigne quand même bien de notre culture face à l'énergie qu'on a au Québec actuellement, que c'est comme pas trop grave en dépenser, mais on s'entend qu'à travers le monde, c'est quand même une ressource qui s'en vient de plus en plus rare. J'ai demandé à M. Barré à la fin, après qu'Hydro, parce qu'Hydro est sorti en disant qu'il ne recommandait pas du tout ça, la Ville de Québec, même affaire, c'est sorti dans le journal. Après tout ça, est-ce qu'il prévoit changer ses habitudes? Voici sa réponse.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça va être business as usual.
Monsieur Barré, Jeff Fortin de l'émission En Jase à Boulevard 101. Derrière vous, laissez votre porte ouverte. Mathias, excellent travail comme à l'habitude, excellent dossier. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette mission. Dans un instant, on parle avec Alex Laramé, Cole Caulfield. Monsieur, samedi soir, en a scoré deux autres samedi. Il est rendu à 35. Semaine de transactions dans la Ligue nationale parce que c'est la dernière semaine où on pourra en faire. Et le prodige Matthew Schaefer qui fait encore des siennes avec deux buts hier, la première recrue à 20 buts cette année. C'est à l'émission On en jase dans quelques instants.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Allez-y. Boulevard 102.1 est une radio d'ici qui parle des enjeux d'ici. Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. Il est bien smart, puis il va aller au bout des choses. Citoyen@blvd.fm 102.1.
Plongez dans la jungle avec Papillons en fête chez Jardin Amel, une terre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche à vivre en famille. Papillons en fête chez Jardin Amel, ouvert tous les jours de 8h à 17h30.
La relâche au musée, ça vaut de l'art. Inspire-toi du mimétisme et peins ta peau comme un insecte. Vis des expériences immersives qui éveillent tes sens. Explore la surprenante expo Hyper Réalisme. Crée, ris et amuse-toi en famille au Musée national des Beaux-Arts du Québec.
Depuis plus d'un siècle, Junot et Frères est la référence en peinture et décoration. Du 4 au 8 mars, profitez de 30% de rabais sur les produits Sico, cuisine, salle de bain, Virtuo, Prestige et Surface Net. Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand ou nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Mécaniciens et électriciens, mettez à vos agendas la soirée porte ouverte à l'aluminerie de Bécancour le 11 mars.
Hey, depuis le temps qu'on veut travailler à l'abbaye, c'est notre chance. On y va?
Mais-en!
Réservez votre place pour les portes ouvertes de l'abbaye au emploi abbaye.com.
Les Jeux du Canada débarquent à Québec en 2027 et on a besoin de toi comme bénévole. Fais ta marque lors d'un événement légendaire qui ne revient qu'une fois par génération dans notre ville. Contribue au succès des Jeux du Canada. Inscription à jeuxducanada2027.ca.
Salut, ici Marie-Lou Wolfe. Du 3 au 8 mars, on se donne rendez-vous au kiosque Chevrolet de l'International de l'Auto de Québec. Découvrez pourquoi Chevrolet est numéro 1 en vente de véhicules électriques au Québec en faisant l'essai routier de différents modèles Chevrolet sur place. Moi, je serai là le vendredi 6 mars de 18h à 19h30. À bientôt!
Salut, c'est Marc Dupré. Je vous attends au kiosque GMC le samedi 7 mars de 15h30 à 17h lors de l'International de l'Auto Québec. Venez faire un tour pour découvrir le terrain ainsi que nos camions. Tout ça se passe du 3 au 8 mars au centre de foire, puis j'ai bien hâte de vous voir.
Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec.
Maintenant, le petit Julien va vous interpréter une pièce pleine de vie, la sonate numéro 11 de Mozart. À toi, Julien.
Pour un jeune, vivre avec un abus sexuel, ça pèse lourd sur le cœur. Heureusement, l'équipe de Marie-Vincent est là pour alléger le fardeau des jeunes victimes de violences sexuelles. Donnez généreusement à marievincent.org.
Pour la relâche, créez des souvenirs lumineux. Découvrez Aura à l'église Saint-Roch. Un univers spectaculaire de lumière et de musique enveloppante signé Moment Factory. Un moment magique à vivre en famille ou entre amis. Réservez vos billets sur auraeglisesaintroch.com.
Nouveau départ en vue? À Sainte-Foy comme à Lévis, Immeuble Roussin offre des condos locatifs de qualité. Un groupe immobilier reconnu où le service est une priorité. Les disponibilités partent vite. C'est le temps de réserver votre prochain chez vous. Visitez immeubleroussin.com.
Pour un animal heureux, actif et en santé, passez chez Dino jusqu'au 14 mars. Profitez de 6 à 9 $ de rabais à l'achat d'une formule de soins Royal Canin pour chien ou chat. Rendez-vous en succursale ou sur dino.ca pour découvrir tous nos spéciaux.
La saison de la disco-glace tire à sa fin, mais il reste encore de beaux moments à vivre sur la glace. Pour la dernière semaine, découvrez la cabane à sucre présentée par le Port de Québec et profitez de l'hiver jusqu'au bout. Une ambiance festive, gourmande et conviviale vous attend pour clôturer la saison en beauté. On se retrouve une dernière fois sur la glace à la Disco Glace du Port de Québec.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102. Hey, j'avais oublié de fermer le micro de Mathias pour nous entendre durant la pause.
Mais c'est tellement un bon débat, ça, parce que ça dépend du temps d'où tu viens entreprise.
Une chance qu'on n'a pas parlé contre les boss avec leur... Avec leurs règles,
qu'on
a parlé pour leurs règles.
On accusait Denis d'avoir choisi d'être absent parce qu'il nous dit qu'il est en manifestation. Parce qu'il n'a plus le droit de prendre de la petite bière pendant son émission.
Exactement.
Parce que Denis minait à la crédibilité de nos émissions.
Moi, je pense pas.
Ben oui, c'est pour ça. Là.
Ben
c'est
non,
ça qui était
ben
pris.
Non,
c'est pour
ben
ça qu'il
ben
était
ben
en manifestation de. Et alors, non. Denis, c'est ça. Alors, les lois se sont resserrées chez les Leclerc et puis tu ne pourras plus boire ta petite 50 tablettes
là,
en studio.
Là, on a fait une émission spéciale sur l'Iran et c'est le temps de parler des vraies affaires parce que l'Iran, bon, il y a des bombardements. Là, vous comprenez le sarcasme, s'il vous plaît, les amis auditeurs. Mais là, on va parler des vraies affaires avec Alex Laramée, journaliste pour le 99.5 Montréal et également... chroniqueur sportif, Alex, écoute ça.
Sa gauche, kick for et c'est bloqué. Ça sera l'échappé. Caulfield avance. Caulfield le tir. Et le but. Caulfield dans le tour.
Monsieur, samedi soir, frappe encore deux buts. Il est rendu à 35. Il va finir à combien, Cole Caulfield? Quelle saison incroyable.
Ah ouais, ben c'est ça la question avec sa performance du samedi soir, encore une fois. C'est sûr qu'on regarde le plateau des 50 buts, hein, c'est le plateau que les grands marqueurs veulent atteindre. Là, il reste 23 parties, il en manque 15, ça va être serré. Hein. Il va falloir qu'il en mette des buts, là, Caulfield, d'ici la fin de la saison. Mais selon moi, mettons un plateau des 45 buts, selon moi, c'est tout à fait atteignable. Je le vois peut-être finir autour de 47. 47 buts, selon moi, ce serait mon over-under, si je pourrais dire. Mais honnêtement, ils viennent de cisser dans la catégorie des grands marqueurs dans la Ligue nationale. Quand on parle, dans les dernières années, évidemment, c'était Ovechkin, là, le nom qui revenait constamment. Mm-hmm. Mais maintenant, dans le nom avec les Matthews de ce monde, maintenant, il faut mettre le nom de Cole Caulfield, qui est dans l'élite de la Ligue nationale à ce niveau.
On revient sur le Canadien dans quelques instants, Alex Laramée, mais il faut absolument parler de ce défenseur extraordinaire.
He's going to be part of this core for a long time. Palat sets up Schaefer. Score! Islanders lead.
Première recrue à 20 buts. Le kid a eu 18 ans au mois de septembre. Matthew Schaefer, dont on a pu admirer le talent à Montréal jeudi dernier, marque deux autres buts hier dans une importante victoire contre les Panthers de la Floride. Hallucinant.
Ah non, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça. Là, on le sait que c'est un premier show total, donc évidemment, la barre était haute. Mais de là à marquer 20 buts en tant qu'un défenseur, déjà juste ça, là, juste un défenseur qui marque 20 buts, c'est assez exceptionnel. Mais de faire à 18 ans son année recrue, honnêtement, c'est indescriptible. Là, je pense qu'en début d'année, on avait certains espoirs de peut-être y aller pour un 2-en-2 au niveau du trophée Calder avec Hudson l'an dernier et Demidov cette année, mais je pense qu'on peut oublier ça. Là. Je veux dire, autant Demidov est bon, là, on va y donner, là, il est excellent, il va être bon pour des années. Matthew Schaefer, cette année, c'est dans une catégorie complètement à part. Pour moi, on peut déjà mettre son nom sur le trophée, c'est sûr qu'il remporte le trophée de la meilleure recrue cette année.
Date limite des transactions ce vendredi. Moi, je m'attends à ce que le Canadien cherche un défenseur d'expérience pour venir combler justement ses 6 premiers défenseurs, parce que Harbert, Drakkar et Jacob Struble ne me confirme pas qu'ils peuvent faire un long parcours en série.
Ah non, c'est sûr. Puis on a entendu les rumeurs des derniers jours. Les Canadiens écoutent les offres, mais on n'est pas prêt à se déshabiller pour aller chercher quelqu'un. Mais je t'ai sorti quand même quelques noms de gars qui pourraient intéresser le Canadien. Moi, le gars que je prendrais là avant tout, c'est Simon Benoit. La raison pourquoi c'est plus difficile, il joue à Toronto. Mm-hmm. Mais le gars, c'est un Québécois, 6 pieds 4, c'est un gaucher, il peut jouer à droite aussi. Il reste 2 années de contrat à 1,2, donc coûte vraiment pas cher. Un gars du Québec, donc ça serait vraiment mon choix numéro 1. Mais quelque chose de peut-être un petit peu plus réaliste, Logan Stanley avec les Jets.
Très
le
d'accord.
Le gars, 6 pieds 7. 6 pieds 7, c'est un gros défenseur. C'est le genre de défenseur qu'on a besoin en série. Il reste 1 année à 1,2. Donc, il devient agent libre à la fin de la saison. Donc, on peut le signer ou tout simplement l'utiliser pour la fin des séries. Mais je suis d'accord avec toi. D'après moi, on va aller chercher de l'aide plus du côté de la défense. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont vendeuses. Hein. Je regardais le classement.
Tout est
serré. Exactement. Beaucoup d'équipes qui peuvent encore prétendre à aller en série. Là, je pense que, mettons, des équipes comme les Leafs là, vont se mettre du côté vendeur avec les sous-performances qu'ils ont depuis le retour. Mais ça va être un bon marché pour les équipes vendeuses. Puis selon moi, si on veut acheter, ben, le prix risque d'être cher. Fait que les défenseurs comme Simon Benoit, Logan Stanley, selon moi, on peut avoir ça pour des choix de milieu de ronde, si on peut dire. Puis il pourrait donner un bon coup de main aux Canadiens en série.
Clairement. Alex Laramée, merci encore pour ton excellente contribution à l'émission Nageuse. On se reparle vendredi. Ça va être la date limite des transactions.
Oh, certainement. On se reparle vendredi.
Cool. Salut, Alex. Alex Laramie, excellent journaliste au 99.5 Montréal et chroniqueur sportif à l'émission On en jase. Pascal CV, on le rappelle, c'est Antonine Iaccarini avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot qui s'amènent dans Gravel dans le retour de 14h à 18h. Nous, on se retrouve demain. On va continuer, évidemment, à suivre l'actualité concernant l'Iran. Je te souhaite une excellente après-midi.
Merci. À demain. Ne manquez pas le trio de feu, ce retour-ci.
Yes. À demain.